Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 10e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Food Quest, le jeu éducatif de l'Agence de la santé publique du Canada. On n'a aucun lien avec ces derniers, mais dans les deux cas, ça abuse du terme Quest pour quelque chose qui n'a aucun maudit rapport avec une quête. Voilà.
Oui, quand même.
Et je suis toujours accompagné de Denis Revel.
Salut!
Jean-François Laporte.
Oui, ma!
Okay. Et moi-même, M. Bonnet. Hein? On y donnera pas d'attention. Ça dérape tout le temps, ces histoires-là.
Oui, vraiment.
Comment ça va, les gars? Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine?
Hey, ça va bien, quand même. Hier, j'allais voir un petit film d'auteur, un petit film pas connu, hein, qui s'appelle Star Wars.
Ouais. Star Wars, oui, je pense que c'est ça. Okay, ouais.
Fait que, on va vraiment rien spoiler. Hein, juste vous dire qu'il paraît que Darth Vader est le père de Luke Skywalker.
Oh, t'as pas donné que ça, ouais,
ça commence
joke d'actualité. Ça commence par le film ou le show?
Le film. Ouais, donc, on est allé voir ça hier, les trois ensemble. Ça a été une belle expérience, mais ça finissait tard. Hein? Donc, on n'est peut-être pas...
Ouais, on était à Laval à la représentation de 10h15.
10h15.
On est sorti à minuit 45.
Quelque chose comme ça.
Et puis, on est reparti. Moi, j'ai pris la 15 Sud pour revenir à Montréal, direction la 40 Est. Et évidemment, comme à chaque fois que je sors de chez nous et qu'il est passé minuit le soir, ben, la jonction 15 Sud 40 Est était barrée. Fait que je me suis ramassé à faire un détour dans l'ouest de l'île en rentrant chez nous. C'était incroyable.
Bulletin de circulation ici, eh ouais, messieurs.
Hein? J'arrive à 2h30 chez nous, vous.
Moi aussi, je suis capable de garocher des numéros.
Attends,
numéros. 15 Est, 26 12.
T'es arrivé
puis,
plus
14.
Tard que moi. Puis t'habites à genre...
J'habite à 15 minutes.
8 kilomètres, là.
Ça m'a pris... sérieux, ça m'a pris une heure et quart. Le gossage dans les rues, tout était bloqué, puis...
Fait que bref, Star Wars... En fait, pour être sûr qu'on parle plus de ça de la soirée, parce qu'il est très tôt par rapport à la sortie du film.
Ouais. Excellent film, j'ai beaucoup aimé.
Jeff?
Excellent film, allez le voir.
Puis, excellent film, allez le voir.
All right, deux fois.
On parlera plus de Star Wars, voilà.
Mais non, sinon, cette semaine, je l'avais dit, je pense, la dernière fois. En tout cas, sinon, je l'ai posté sur Twitter. Je me suis acheté Henry Atworth. Hein, on en a parlé la dernière fois. J'étais comme un peu en amour avec le jeu. Je me suis pogné pendant le pod. Et j'ai commencé à jouer. C'est vraiment un jeu écœurant.
Ce gars-là fait pas d'achat impulsif.
Jamais en haut de 15$, mettons.
Et justement, Henry Atworth, t'as payé quoi, 8$?
Genre 8 plus le shipping, 10$, mettons, avec tout inclus. Là. Ça a pris deux jours. En plus, il était en Ontario.
Bref, à ce prix-là, c'est un maudit bel ajout dans votre collection.
Vraiment. Et ça m'a coûté aussi cher que mes hosties de lunettes de Star Wars.
Hey, on a dit qu'on n'en parlait plus.
Excusez.
Ouais, moi, j'en parlais tantôt. Faut que...
Ben, tu s'en iras. Bon. Sinon, j'ai joué aussi à Mercenary Kings cette semaine. Je l'avais déjà acheté. Mercenary Kings, qui est un jeu de tribute game, là, qui est un studio qui est à Montréal.
Mm-hmm. Méchant bon jeu. Qui sont des podcasters eux-mêmes, les gens de tribute games.
Ouais, ouais. Donc, méchant bon jeu, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a permis aussi de tester le Steam Link que j'ai emprunté à Mathieu, justement. Puis, ça semblerait que si je suis assez gentil, le Père Noël le mettra sous mon sapin. Hein, j'ai demandé le Steam Link. C'est une méchante belle machine. Puis ce genre de jeu-là se joue vraiment bien, là, assis sur un divan, c'est génial. Mais Mercenary Kings, là, bon petit shooter.
Or, dis donc ça, mettons.
Mercenary Kings.
Mercenary
Kings. Mercenary Kings.
D'accord.
Donc, ouais, genre de petit shooter rétro avec des éléments un peu RPG où est-ce que tu montes un peu tes armes. Là, c'est,
et de crafting.
Et de crafting, là, ouais. Bref, vraiment bien. Puis pas mal ça, en fait. Manquer de temps pour jouer cette semaine, ça ressemble à ça.
C'est le temps des fêtes.
Voilà.
Et moi, de mon côté, Star Wars! j'ai ramassé, j'ai vu une promo sur Facebook passer pour Bundle Stars. C'est bien rare que je vais ramasser des jeux en bundle à cause d'une pub Facebook. Mais pour ceux qui sont familiers avec Humble Bundle et tous ces trucs-là, Bundle Stars est une autre offre semblable. Donc, on donne un montant X. Ils ne sont pas aussi charitables que Humble, mais c'est des bundles de jeux à très bas prix. Puis dans ce bundle-là, ben, j'ai ramassé justement 3D Realms Collection, qui est une collection de tous les jeux que 3D Realms ont fait avant telle année, mais c'est un nombre ridicule de jeux. Et j'ai découvert un petit jeu du nom de CrossCode, que je pourrais décrire rapidement comme un mix de Zelda et de Twin Stick Shooter. Twin Stick Shooter, donc comme les Geometry Wars puis les trucs comme ça. Bref, on se déplace avec le joystick de gauche et on tire dans la direction que pointe le joystick de droite. Des jeux que j'aime beaucoup. Puis justement, un mix comme ça, ben c'est venu me chercher. Puis le jeu, bien qu'il soit en développement présentement, on peut y jouer. Puis ça n'a pas le feeling d'être en développement. Fait que si vous êtes intéressé, le jeu lui-même est à une vingtaine de dollars quand même présentement, je crois. Dans le bundle, il est comme 4 piastres avec un paquet d'autres jeux. Donc, bundlestars.com.
Dans la série des achats impulsifs, là,
Non, c'est ça, on s'est tous pitché là-dessus.
Ouais, j'ai pas mal ordonné à Jeff et à Danny d'aller l'acheter parce qu'à ce prix-là, il y a trop de bonnes choses dans le bundle. Ça, j'ai continué ma game de Cave Story sur PSP, parce qu'il y avait un port non autorisé du jeu Cave Story, qui est un jeu que j'aime beaucoup, sur PSP. J'ai mis un peu de temps dans ça. Comme j'ai partagé sur le Twitter du podcast, Shadow Complex Remastered est sorti sur PC gratuitement et va sortir sur Xbox One et PS4 l'année prochaine. Et il va devenir payant, en fait, l'année prochaine pour PC aussi. Donc, à ramasser gratuitement pendant qu'il est gratuit, finalement. Parce que c'est un très, très, très bon jeu. Puis, je le recommande à tous les fans de Metroidvania.
Est-ce que le remaster vaut la peine de le rejouer si on a joué l'original?
À ce que j'ai lu, parce que j'ai pas mis de temps dedans, mais très peu. Ils ont rajouté comme une couple de takedown melee, puis c'est ça. Okay. Il y a vraiment très peu de choses. Mais c'est ça. Juste le fait qu'il soit pas juste sur 360, ça va permettre à beaucoup de gens d'y jouer. Ensuite, j'ai participé au alpha test de The Division de Ubisoft.
T'as chance de te dire, là.
Ouais, c'est ça. Il y a un NDA, il y a une entente de non-divulgation attachée à cet alpha test-là pour le jeu, donc je peux pas en parler, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience en général, puis je suis curieux de voir le jeu à sa sortie, comment il va être reçu, parce que c'était le fun. Et bien sûr, avant de s'en venir enregistrer, ben, j'étais avec Danny, puis on est arrêté à notre petit bar, j'aurais dit bar-resto maintenant, préféré ici à Joliette, l'Albion. Puis ben, c'est le temps des fêtes, hein, fait qu'il y en a bien qui sont sur le party. Puis on a eu un de nos auditeurs, Martin Forget, pour ne pas le nommer, qui nous a payé des shooters, fait qu'on était déjà sur le party avant de commencer le pod.
Hey, merci Martin.
Donc merci Martin. Voilà.
Charles Martin.
Ben c'est ça, Jeff, tu n'aurais eu, mais t'es pas là.
La prochaine fois, Martin, on s'en reprend.
Mon Dieu, c'est... Hey, tu vas me payer des shooters. Ça passe pas, ça.
Non, c'est ça. Ça va m'emmener.
Fait que, puis toi, Jeff, justement, qu'est-ce que t'as fait?
Ben, Star Wars, étrangement. Quelle surprise!
Ah ben.
Cette semaine, j'ai reloadé Downwell sur mon téléphone. J'avais essayé sur PC, mais j'ai mis sur mon iPhone pour passer le temps dans le métro. Tout aussi agréable, quoique il faut réapprendre les contrôles, mais c'est vraiment un petit jeu. C'est définitivement... le jeu portable sur lequel j'ai passé plus de temps depuis des mois. Fait que on en a déjà parlé dans un podcast avant, allez l'écouter. sinon, j'avais beaucoup aimé Back in the Days, Puzzle Quest. Puis depuis ce temps-là, depuis qu'il est comme plus difficile à trouver un petit peu si t'as pas un DS, je suis toujours à la recherche de retrouver un autre Puzzle Quest intéressant. Puis ils sont comme tous sombrés en enfer à toutes les. Dans le genre de la roue interminable, de reprendre la recette à toutes les sauces, à toutes les Marvel, Star Wars.
Puis pour ceux qui n'auraient jamais approché l'univers des Puzzle Quest, ben c'est un hybride de Bejeweled, là, de Puzzle Match 3, avec des éléments de RPG.
RPG, exactement. Et là, c'était Magic the Gathering Puzzle Quest. Je fais comme, ah, j'aime bien Magic, j'aime bien Puzzle Quest, on va regarder les deux ensemble. Et comme tous les autres clones de Puzzle Quest, qui m'aurait finalement turn off, ben c'est un freemium game, donc il y a des microtransactions dans le jeu.
Fait que,
rapidement, je me suis découragé un petit peu de ça. Et j'ai mis quand même pas mal de temps sur République.
Je pense que ça veut dire, j'ai mis quand même pas mal d'argent sur Magic Puzzle Quest. Là, mais...
non. J'ai quand même pas mal de temps sur République, qui est un stealth game qu'on avait pas parlé, mais qu'on a dit que j'aurais aimé en jouer, qu'on avait parlé du stealth game sur le podcast. Bien, je me suis repris, je l'ai joué, on en reparle tantôt.
Cool.
Et... je me suis rattrapé aussi de mon retard derrière vous deux, les gars. Fait que j'ai commencé à écouter Jessica Jones. Et ben, rien à dire. C'est à la hauteur de mes attentes et c'est excellent. Et excellent.
Hey, j'ai fait un petit oubli tantôt. Mm-hmm. Je voulais faire un petit peu de suivi sur mon segment.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me. Je sais pas, peut-être que je suis seul, mais j'ai aimé ça la dernière fois. Donc, je vais continuer mon suivi de Justin. 45 jours écoulés au mandat de Justin Trudeau. 6 promesses de réaliser. Donc, dans le fond, les promesses, en fait, les promesses qui ont été ajoutées, là, c'est promesses de baisse d'impôts, baisse du taux d'imposition pour la classe moyenne, puis un nouveau palier d'imposition pour les gens qui gagnent 200 000 $ et plus par année. On a une réaction ici de l'ancien premier ministre Stephen Harper. Pour regarder la thématique.
Alors, cette semaine, dans l'actualité, on a appris que Amazon retirait les Overboard de son magasin en ligne. Quand on dit Overboard, là, on parle pas bien des planches roses de Mattel, là, chers fans de Back to the Future que vous êtes probablement tous, mais bien des petits bidules autobalancés à deux roues qui s'apparentent au Segway. mais en plus mongol, de toute évidence. Là. Il semblerait que beaucoup des versions de ces appareils sont, sont des produits chinois de basse qualité et qu'ils prendraient en feu de façon hydrolysée.
Est-ce que tu parles que de ça ou de la majorité des trucs qu'il y a sur Amazon?
Avec les recherches très exhaustives que j'ai faites, ça concerne malheureusement que les overboard chinois. Swagway, oui, la compagnie qui fait ça originellement. Non, Swag. Oui,
on va le réenregistrer la semaine prochaine. Quel
terrible jeu de mots. Mais le produit original s'appelle le Swagway. Donc, Swagway. La compagnie Swagway, qui sont les concepteurs du produit original, a montré son appui à l'initiative.
Swagway.
Quand vous êtes prêts. Là.
Non, mais non.
Okay, on t'écoute.
Bon, c'est bon. C'est ça, la compagnie a présenté leur support à l'initiative d'Amazon de retirer ces produits-là. Aucune surprise qu'ils préfèrent que vous achetiez leurs produits à des versions clones. Hein? Fait qu'on a ensuite appris mercredi que USPS, le service postal américain, refusait maintenant de transporter tout overboard par avion à cause des risques d'incendie. Fait qu'on va espérer maintenant que le tout rentre dans l'ordre rapidement. Sinon, les montages de fail risquent de manquer de contenu en l'absence de monde qui se fouille à pleine face.
Pas de temps, je te jure qu'ils vont trouver d'autres qui fail.
Alors, dans une autre histoire qui semble tirée directement d'un livre de science-fiction, la compagnie canadienne Vitality Air a vu la demande en Chine pour son produit grimper en flèche ces dernières semaines. Vitality Air vend de l'air, des montagnes de Banff et du lac Louise, embouteillé à la main.
Mais comme dans Spaceball, là?
Comme dans...
Genre.
Une petite canette, puis...
Ben, c'est des espèces de bouteilles. En fait, je vais vous donner le détail. Le fondateur de l'entreprise, Moses Lamb, oui, Moses comme Moïse, a confié au Global News avoir vendu en 10 jours 500 bouteilles d'air en Chine. Un contenant de 7 litres d'air se vend autour de 25$ et donne à peu près 150 bouffées d'air toutes fraîches qui viennent de passer 2 semaines dans un container. Ouais. le Parti libéral du Québec a signifié son intention d'offrir un service semblable. Philippe Couillard lui-même mettrait l'épaule à la roue, ainsi le PLQ permettrait aux clients internationaux d'avoir l'air crosseur.
Oh!
Voilà. Et on a également du nouveau dans le Konami Watch. Du nouveau dans le Konami Watch. Finalement, Hideo Kojima, le créateur de la franchise Metal Gear, a officiellement quitté Konami pour fonder son propre studio de développement. Hideo et son équipe travaillent déjà sur un premier jeu qui sera disponible sur PlayStation 4 et PC. Le studio se nomme Kojima Productions et il semblerait que c'était pas leur premier choix. Des complications légales, honnêtement un peu prévisibles, auraient empêché à Kojima d'utiliser son idée originale qui était, et je cite, « Fuck Konami with a rusty knife in their eye sockets and then throw some salt on the wound just for shit and giggles. » Le géant du e-commerce chinois Alibaba a acheté le journal anglophone South China Morning Post. La transaction s'est élevée à un peu plus de 266 millions de dollars américains et inclut d'autres publications, comme les versions Hong Kong de Esquire et de Cosmopolitan. Le vice-président de Alibaba, Joseph Tsai, a tenté de rassurer le public dans une annonce qui va comme suit. Certains ont suggéré que l'indépendance éditoriale du SCMP serait compromise. Cette critique reflète en soi un biais de suggérer qu'un propriétaire de journal perçoit les gens ayant des vues différentes comme problématiques. On a tenté de contacter la presse pour obtenir leur réaction sur le sujet et on a reçu une réponse d'André Pratt et je cite « LOL ». Je suis pas trop sûr ce que ça veut dire.
Non, mais... c'est peut-être un nom de code, quelque chose.
C'est un anagramme. Pour...
Ben oui.
On fera le reste du gag la semaine prochaine.
On va y réfléchir puis on revient avec ça.
On verra si on a le droit de le faire. La semaine dernière, on a eu droit à la bande-annonce du film « Independence Day Resurgence ». Après un « meh » généralisé, on a aussi eu droit à un site web se voulant viral relatant les circonstances de la « War of 1996 », c'est-à-dire les événements du premier film. On apprend que Steve Heller, le personnage incarné par Will Smith, serait décédé en testant le premier avion de chasse hybride basé sur les technologies extraterrestres qu'ont développé le gouvernement suite aux événements du film. Des rumeurs sembleraient indiquer qu'il est mort écrasé sous la taille du cachet demandé par Will Smith pour jouer dans le film. On a également dans les nouvelles un certain Marc Poitras qui aurait publié sur son fil d'actualité Facebook une photo d'un mignon, petite créature jaune issue du film Despicable Me, accompagnée d'une joke de mon oncle n'ayant aucun rapport avec la dite créature. 3 personnes ont liké la publication, le reste du monde s'en est complètement crissé. Je vous tiens informé des développements de cette histoire.
C'est important quand même.
Ben, j'espère vraiment qu'il y a quelqu'un sur le podcast qui connaît un Marc Poitras.
Du grand journaliste. Ouais,
moi, les blagues des mignons m'ont quand même permis de me rappeler le petit la petite option pour faire ne plus voir ses publications.
C'est bien qu'il pense à nous. Adidas a présenté un nouveau soulier qui est produit à partir d'une imprimante 3D en utilisant des déchets trouvés dans l'océan. La partie supérieure du soulier est faite de plastique recyclé et la semelle de polyester et de filets de pêche. Le tout était afin de souligner les efforts environnementaux mis en place par Adidas. Le représentant d'Adidas a affirmé que l'idée de prendre des déchets pour créer du contenu lui était venue en écoutant Occupation Double. Oh.
Au moins, il n'a pas dit Divan Quest. Hein.
Yes! Donc, République!
Ok. Okay.
C'est pas ce commentaire?
De plus en plus clair.
Là, tu sais quoi, là? Tu l'as reconnu?
Non.
Ah, c'est les Head Crabs dans Half-Life.
Ben oui, c'est tellement le son le plus reconnaissable de l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Tu sais, après le saut de Mario Bros, là, c'est. C'est le gargouillis d'estomac d'un Head Crab.
Donc, République! Oui. Donc, comme on l'a dit, c'est un jeu qu'on avait parlé dans notre épisode thématique de Stealth Game, qu'on n'avait pas parlé, que j'avais pensé parler, mais j'ai pris autre chose finalement. Et je me suis dit que je devais faire un retour sur ce jeu-là éventuellement. Et ben cette semaine, ça s'est fait. C'est un jeu qui est issu d'un Kickstarter qui a été fait en 2012, en fait, qui avait ramassé à ce moment-là 550 000 $ avec un petit peu plus de 11 000 backers. Donc, c'est un des success stories du gaming de Kickstarter. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échecs sur Kickstarter au niveau des jeux vidéo. Donc, Kickstarter en 2012 a été sorti au public. Le premier épisode a été sorti au public en décembre 2013, donc un an plus tard. Il était au début disponible seulement sur iOS. Donc, c'est un jeu qui était porté pour iOS au début. Éventuellement, a été porté sur Android et Windows et OS X. Il y a même une version PlayStation 4 qui s'en viendrait incessamment, qui irait tous les 5 épisodes inclus dans la même version. C'est un jeu qui est développé par un développeur qui s'appelle Camouflage et Logan Games, qui ont fait ça ensemble. Qui a une petite histoire intéressante que je vais mentionner parce que ça tie-in avec quelque chose que je risque de parler plus tard.
On va parler de M. Ryan Patton.
Ryan Patton, qui était le fondateur de Camouflage, en fait, qui est à la base du projet, en fait. Et son idée, c'est qu'il voulait arrêter de se plaindre qu'il manquait de jeux intéressants sur les consoles mobiles, puis il a décidé d'en faire un. Donc, il a fait République. Et le concept de Hope, la personnage principale qu'on aide, en fait, qu'on joue pas, mais qu'on aide dans ce jeu-là, ça vient d'un jeu. Il voulait faire une expérimentation, pas vraiment un jeu, plutôt comme une expérience qu'il voulait apporter du Japon vers les pays de l'Ouest, qui était basé sur Love Plus. Ou Love Plus. Je laisse là, on en reparle tantôt de Love Plus, ça va revenir. Donc, c'est un jeu qui est très, très influencé, entre autres, par 1984, par des jeux comme Metal Gear, comme Resident Evil, comme Demon's Souls. C'est vraiment tout. On reçoit un petit peu tous les éléments de ces jeux-là. Et c'est vraiment basé sur les thèmes de la paranoïa, du voyeurisme, de la censure, du contrôle du gouvernement sur ses citoyens et tout ça, qui a un gros thème là, de Big Daddy et tout ça qui est très, très, très présent à travers le jeu. En fait, le jeu, c'est on aide, on est un personnage, on est nous-mêmes, en fait. Là, je pense vraiment qu'on s'incarne nous-mêmes à travers ce jeu-là, qu'on est un petit peu comme un hacker qui communique avec Hope, qui est la personnage principale du jeu, à travers son téléphone, un téléphone que quelqu'un il a smuggled in dans la métamorphosis, en fait, qui est le complexe où elle est faite prisonnière, elle est tenue prisonnière. Et à travers les ordinateurs et son téléphone, on va communiquer avec elle, puis on va essayer de l'aider à s'échapper de là. Donc, dans les personnages principaux, il y a Hope avec qui on va parler, il y a un paquet de personnages qui appartient à l'état totalitaire, là, qui sont là, puis qui vont interagir. Le voice acting est super intéressant. D'ailleurs, Mireille, qui s'appelle comme la personnage, le méchant principal, si on veut.
Le méchant qui s'appelle Mireille.
Mireille.
Ça manque de crédibilité.
Elle est française, mais qui est voice actée par Jennifer Hale. Donc, quand même. Qu'on connaît pour Mass Effect.
Voilà, c'est quand même bien de le préciser.
Quand même pas pire. Donc, c'est ça. Donc, à travers tout le jeu, c'est qu'on va guider Hope. C'est un stealth game où on fait aucun stealth, en fait. On regarde à travers les caméras. Puis on peut contrôler les caméras de sécurité qui est à travers le complexe. Puis en regardant avec les caméras aux alentours, on peut à distance pirater les ordinateurs, pirater les consoles. On peut lire les documents sur les bureaux, ces choses comme ça. Et on peut quand on regarde une autre caméra, on peut prendre le contrôle de la caméra qu'on regarde. Fait que tu peux te promener d'une caméra à l'autre à travers le complexe, jusqu'à une certaine distance du verre de Hope. Si tu vas trop loin, il fait comme trop noir. Parce que je crois qu'il y a moins de lumière si tu t'éloignes de elle. Il y a peut-être quelque chose à dire avec son nom et peut-être un beacon of hope à travers le jeu.
On commencera pas le débat.
On n'ira pas jusque-là. mais donc, tu te promènes d'une caméra à l'autre pour voir devant elle qu'est-ce qui s'en vient, voir le déplacement des ennemis. Puis on indique en tapant dans l'écran où est-ce qu'on veut qu'elle se déplace. Puis elle va se rendre à ces endroits-là. Puis elle va faire les actions qu'on lui demande. Si on dit rouvre une porte, elle va aller ouvrir la porte, elle va passer. Si on lui dit va pickpocketer le garde, elle va y aller. Et on est totalement en contrôle de où on l'emmène, qu'est-ce qu'on fait, et il ne faut pas qu'elle se fasse prendre. Il faut sortir de là, en fait. Une grosse inspiration de Metroid. C'est très, très Metroidvania-esque dans le gameplay, dans le sens où on revient régulièrement sur nos pas. Donc, le complexe est énorme, mais pas si énorme pour durer pendant des heures, mais tout le jeu se passe dans le même complexe. Donc, souvent, tu croises des terminaux que tu n'as pas le niveau d'accès pour accéder à l'ordinateur, ou tu ne peux pas ouvrir la porte. Fait que tu vas revenir plus tard sur tes pas pour passer dans ces chemins-là.
Mais contrairement à Metroid, t'as pas...
Piu, 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 piu!
Il y a aucun piu, 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 en fait.
Déception.
Déception. Il y a aucun piu, 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 c'est vraiment... c'est vraiment juste du stealth, tu veux la faire passer puis qu'elle se fasse pas voir. Elle a certaines armes, elle peut ramasser des tasers, elle peut ramasser du poivre de Cayenne, des choses comme ça, qu'elle peut servir sur les gardes. Donc, si t'arrives par surprise ou si le garde arrive pour t'attaquer puis t'es assez rapide, tu peux prendre ton taser puis taser le garde. Fait qu'à ce moment-là, il perd connaissance au sol. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est quand tu te fais voir, il n'y a pas de game over et le jeu n'arrête pas. Il n'y a jamais, un arrêt dans le jeu. À plein d'endroits à travers le jeu, évidemment, son téléphone manque de batterie. Plus tu vas faire d'action, plus tu hack les portes, plus les caméras, les batteries de son téléphone se vident. Puis, si tu n'as plus de batterie, tu peux plus rien hacker. Fait qu'il faut que tu trouves, il y a comme des cellules. Puis, dans chaque cellule, il y a un petit bureau où le garde pourrait être installé. Puis, à côté du bureau, il y a une prise, puis tu peux charger ton téléphone. Mais ça, il y en a de parsemés à travers la map. Et ces cellules-là, c'est une prison.
Mais c'est
vraiment ouais. Je trouve que c'est la mécanique de jeu la plus frustrante du monde. C'est une super bonne idée.
Oui.
Ça
te fait penser à la réalité, mais en même temps, je trouve que c'est une belle façon d'avoir une limite sur les actions.
C'est plus grounded que les.
Puis ça force l'exploration, en fait. T'es obligé d'explorer, puis t'es obligé de trouver ces endroits-là. Ouais.
Machine à écrire de Resident Evil.
Exactement. Ouais. Sauf que si elle se fait prendre, mettons, si tu te fais voir par un garde, c'est pas game over. Le garde, il court après. S'il t'attrape, ben, il met des menottes, puis là, il casse la radio, il dit « OK, je viens de trouver un détenu en fuite, je le ramène en captivité, ou en whatever, captivité, ça fait un petit peu comme un zoo, mais...
ouais, c'est le terme quand même.
Confinement, whatever. OK, puis là, c'est vraiment, tu vois les personnages marcher jusqu'à la zone de confinement la plus proche, et là, tu te fais mettre en prison. Puis là, le garde dit « OK, c'est parfait, dans la prison, et le garde s'en retourne faire sa patrouille. » Toi, tu prends.
Là, tu charges ton sel.
Tu charges le sel, mais tu cliques sur la porte, tu yacques la porte elle rouvre, tu ressors, puis tu continues de là. Donc, quand tu te fais prendre par un garde, il te ramène juste à l'endroit le plus proche.
C'est une mécanique de checkpoint, mais qui est vraiment comme intégrée dans la réalité.
Le jeu coupe jamais. Fait que tu joues comme ça. C'est cool.
Ça rappelle un peu Prince of Persia, qui avait relancé là, après avoir fait la trilogie. Warrior Within, Sands of Time, puis tout ça. Il avait fait un Prince of Persia qui n'avait pas de sous-titres.
Okay.
Puis il était tout le temps avec une fille. Mais aussitôt que tu tombais dans un trou, elle volait ou peu importe, puis elle te ressortait de là. Mais il n'y avait jamais un écran de mort dans ce jeu-là.
Mm-hmm.
Tu étais tout le temps comme... Sans briser la narrative, tu ressortais de la situation, puis tu continuais.
Ouais, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai trouvé que ça brisait pas le gameplay. Tu n'étais pas obligé... J'ai jamais filé comme... Ah, faut que je recommence. Parce que des fois, la place la plus proche est peut-être... dans un autre coin, fait que c'était pas passé par là. Ou tu sais, il t'amène vraiment dans l'endroit le plus proche, il te laisse là, puis il continue. Fait que tu reviens des fois par une autre porte différente, ça peut changer ton approche un petit peu du level. Parlant de l'approche, au niveau de... Il y a très peu de stealth. Pour un stealth game, il y a très, très peu de stealth.
Excuse, t'as commencé en disant c'est un jeu de stealth. Tu dis, on fait un stealth, parce que... C'est pas toi qui le fais. Mais OK, c'est un jeu de stealth, mais tu fais aucun stealth. Puis là, il y a très peu de stealth.
Non, mais toi, tu le fais pas, tu lui dis de le faire, mais je m'explique.
Je suis content qu'on n'ait pas parlé dans l'épisode de stealth.
Je m'explique. ce qui est intéressant, c'est que d'avoir l'accès à se promener d'une caméra à l'autre, tu peux voir tous les chemins où les gardes vont se promener. Fait qu'un petit peu comme Mark of the Ninja, t'as une connaissance, t'as une omniscience du complexe, puis d'où les ennemis sont situés, puis des accès. Fait que tu peux prévoir, tu peux faire ton plan à l'avance, tu peux calculer des placements. Il y a même des upgrades que tu peux ajouter à ton interface de hacking qui te permet de trigger des alarmes pour attirer l'attention des gardes ailleurs, ou tu peux lire les ordinateurs, tu peux hacker des portes, des choses comme ça. Fait que tu as des outils pour t'aider, puis ils vont t'aider dans les puzzles, mais ça devient juste ça. des puzzles. Fait qu'il n'y a pas vraiment de skill, de quoi que ce soit. C'est chaque encounter avec des gardes, chaque pièce où les gardes vont se promener, il faut juste trouver leur pattern, que tu trouves comment passer, quoi activer, dans quel ordre. Ça devient des puzzles. Et ce que je trouve un petit peu plate, c'est pour un monde qui est en 3D et qui est quand même grand, rapidement, tu finis par te rendre compte que tu n'es pas vraiment dans un monde en 3D. C'est une grid sur le sol, puis la personnage principale et les ennemis marchent selon une grid. Fait que leur champ de vision s'arrête vraiment soit en attitude, ils ont un 180 degrés, mais tu peux être, si le garde est debout puis t'es le pixel derrière son 180 degrés, il te voit pas. Fait que tu peux marcher derrière un garde debout puis il va jamais t'entendre, il va pas te voir. Fait que c'est quand je dis qu'il y a pas de stealth, t'as juste à pas te mettre au bon endroit, t'as juste à pas être dans le carré où lui voit puis t'es correct. T'sais. Il voit pas très loin non plus d'ailleurs.
Ben Metal Gear aussi fonctionne un peu comme ça avec les radars. Tu vois le champ de vision du garde puis tu marches.
Ouais, mais celui-là, tu ne vois pas. Tu n'as aucune information à part ce que tu vois les personnages, mais tu déduis rapidement que.
Ben, le savoir ou le voir, c'est un peu la même chose.
Ouais, ça, définitivement. Mais tu vois quand tu marches, tu pèses, mettons, à deux endroits dans une salle, elle ne va jamais faire la diagonale. T'sais, elle va toujours marcher en L pour se rendre. Elle va toujours.
Parce que en plus, Ryan Patton travaillait pour Kojima Production dans le temps de Metal Gear Solid 4.
Mm-hmm.
Il faisait un podcast, d'ailleurs, qui suivait les événements de la production de Metal Gear. Fait, je sais pas si c'est un style de stealth qu'il appréciait. C'est peut-être pour ça qu'il est allé vers ça.
Moi, je trouve ça quand même drôle quand t'as un jeu de stealth où est-ce que les ennemis peuvent pas t'entendre. T'sais, je comprends que dans le jeu, Louis, c'est dur à aller chercher. Mais c'est comme un des éléments que j'avais aimé dans Mark of the Ninja, c'est qu'on voit un peu à l'écran le son que tu fais. Puis, tu sais, là, t'es en arrière du garde, t'es collé dessus, là.
Ouais, mais excuse, mais quel jeu de stealth utilise pas de son dans ses mécaniques de stealth?
Lui?
Ouais, mais c'est pas parce que la plupart des jeux de stealth, tu peux marcher en arrière des gardes. Là. On présume que tu t'es sneaké.
Mais tu peux courir. Si tu cours, là, ils vont t'entendre. Okay, mais faut que tu le tapes. Mais j'ai couru une fois, je pense. La seule fois que j'ai couru, c'est pour me sauver d'un garde qui m'avait vu. Fait, c'est pas une mécanique que je me suis servi beaucoup. Fait, finalement, je vais juste comme marcher à travers puis juste passer derrière les
gardes. On s'en que dans la République, marcher, t'es plié en deux, puis tu marches bas. Pour rester inaperçu.
Puis elle se cache elle-même. Ça, c'est, je trouve que c'est intéressant, le fait que le personnage, tu lui dis quoi aller, mais elle a quand même une intelligence à elle. Fait que êtes-vous dans une salle, s'il rentre un garde, elle fait oh my god, puis là, elle va se picher derrière une table.
Oh,
puis là, elle te parle, elle va dire il est là, il s'en vient, je l'entends marcher. Puis là, elle te parle, fait que t'as comme un lien avec ce personnage-là qui est super intéressant. Puis c'est un petit peu ça qu'il voulait aller quand je parlais de Love Plus, qui est une expérience qu'il voulait ramener là, du Japon, de ce jeu-là. C'est un petit peu ce côté d'interaction-là avec le personnage que tu as avec Hope, en fait, puis qui est super intéressant. Fait somme toute, un jeu super différent des jeux autres que tu peux jouer sur un téléphone mobile. C'est une belle expérience. C'est un jeu complet qui est épisodique. J'ai joué le premier épisode, mais il y a 5 épisodes en tout. Mais en termes de stealth game, quelque chose comme ça, c'est à revoir. En termes de jeu de puzzle, jeu d'aventure, c'est intéressant quand même. Et les dialogues sont super bien écrits, les textes, c'est super drôle. C'est super, super drôle. Le développeur vend ses jeux, puis vend d'autres jeux du Play Store à travers le jeu. Mais dans une approche qui est géniale, les gardes ont des jeux dans leur poche, puis c'est des pickpockets les jeux, mais c'est des pubs. Les j'ai joué à ça, je me rappelle, quand je développais République, puis c'est vraiment cool. Puis il y a des anecdotes sur tous les jeux. Puis c'est vraiment drôle ce qu'il dit, fait que c'est comique. Puis il parle tout le temps avec la voix de Microsoft Sam. Ça, c'est mourant.
Wow. Pour ceux qui ne savaient pas, Microsoft Sam, c'était quoi, 98 ou Windows 98 qui était là? Avant ça même.
Ça fait longtemps.
C'était la voix comme que tu pouvais y faire. La voix comme de synthèse.
C'est un synthétiseur vocal qui permettait d'écrire.
Qui était pas très hot, là. Mon sentence, c'est l'époque. Là. C'est Microsoft Sam.
Bref, tout le monde sonnait comme Stephen Hawking.
C'est ça. Il y a un petit côté beaucoup d'humour, beaucoup à travers le. Pas dans l'histoire, mais dans toute la lore qui entoure le jeu. Puis c'est très, très tongue-in-cheek. Il est au courant que dès que tu livres que tu trouves un livre ou quelque chose, il se déconnecte de l'histoire du jeu, puis il fait des blagues, puis il brise le quatrième mur. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Puis c'est très drôle, c'est divertissant. Et ce que j'ai trouvé super le fun, c'est que toutes les gardes que tu vois, si tu les regardes à travers les caméras, ils ont tout le temps comme une petite vignette qui flotte à côté de leur tête, puis ça te permet de voir leur passeport. Tu vois le bio des gardes et toutes les gardes du jeu. Tu vois leurs photos, tu as leur nom, ils ont des surnoms, puis une petite bio, puis comme les pourquoi, genre c'est tout des brigands, puis des truands, des affaires comme ça, puis pourquoi ils ont été arrêtés. Et c'est toutes les photos de ceux qui ont kickstarté le jeu.
Ah, ça,
fait.
Je pensais.
tout écrit founder, puis là, tu as sa face, puis là, mettons, il s'appelle Mark Stein, puis là. Surnom de Stain, des affaires comme ça. Ils ont des noms, des jeux de mots avec le nom du Kickstarter.
Occupation préalable, genre c'était un. Genre, asso-sexuel.
Ça, ouais, tout ça fait de même. C'est vraiment.
C'est comme, oh, cool, j'ai kickstarté le jeu, je veux que le produit arrive à terme. Fait que, selon ce jeu-là, ben, j'étais un violeur quand même.
Mais je sais pas s'il y avait un choix, tu sais, si tu peux choisir qu'est-ce que tu voulais.
Quel crime t'as fait,
Mais en tout cas, tout le monde que tu vois, ils ont une photo du backer, puis t'as une petite bio qui va avec. Et quand c'est des personnages qui sont voice actés dans leur surnom, ou comment, ou also known as, puis t'as le nom des voice actors dans les descriptions.
Oh, c'est cool.
Ouais, c'est une petite touche qui est assez intéressante. Donc, malgré que j'ai eu beaucoup de plaisir, ben, je vais le coter. Je vais donner, fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, je vais le coter 100 pattes de divan. Je vais donner un 2.5 pattes de divan. C'est un jeu qui est rafraîchissant, qui est différent, mais au niveau du gameplay, c'est pas le plus intéressant.
2.5 sur 4.
2.5 sur 4.
Donc, aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, donc en date du 21 décembre, la date où le podcast sera disponible, je commence avec quelques naissances. J'ai encore une première naissance là, il y a très longtemps, je ne sais pas, je suis encore dans la même thématique. 1879, un certain Joseph Staline, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, là, un leader de la Russie là, dans une époque où ça allait très bien.
Il gagnait des guerres dans ce temps-là.
Ah oui, mais en tout cas, je vais me faire traiter de communiste encore, je mets une forme à ma trappe. 1943, André Arthur, même journée, ces deux personnes, coïncidence, je ne crois pas.
Éditorial.
quelques années plus tard, 1948, Samuel L. Jackson, hein, je ne ferai pas de blague, rien à dire, c'est Sam Jackson.
C'est une coïncidence, ça aussi.
Je ne crois pas, André Arthur, Sam Jackson.
Mais non, mais pas.
André Arthur et Samuel Jackson, beau petit débat, ça pourrait être intéressant.
Oui. Se faire call it bitch, puis en tout cas.
puis ils ont tellement été souvent en compétition pour les mêmes rôles.
Tout à fait. Même casting. 1956, un monsieur Rock Lafortune, un acteur, un scénariste québécois, un gars qui s'est fait servir, je pense, une de mes répliques préférées.
C'est que t'as arrêté, toi? Tu viens de pogner à Joe que je t'ai compté il y a deux jours, c'est ça? Toi aussi, ça va bien, Julien? Je te regardais aller l'autre jour, là. Faut être gelé en hostie, manger des toasts à moutarde.
Donc, dans les boys, oui, Rick Fortune qui jouait Julien, là, qui était. Ben, il était à la poudre.
Hein? Bon, c'est pas long, je vais aller me faire des toasts à moutarde. Ouais.
Tu reviendras. Voilà. Puis sinon, 1966, Kiefer Sutherland.
Oh!
Ouais, un grand acteur canadien qui a joué dans. Ben, c'est ça, là.
Ben, comment, la voix de Solid Snake dans Metal Gear Solid 5?
Ah, tu vois, c'est du boulot, je le savais pas.
Écoute, il y a une thématique gaming à ramener dans tout ça.
Une thématique Konami.
Konami. Puis Jack Bauer.
Jack Bauer, ça. C'est ça.
Ouais, dans 24.
Ma joke, là.
Excusez. Le fils du grand acteur canadien, Kiefer Sutherland. Donald Sutherland. Sutherland, ça se dit bien, hein?
Sutherland.
Je suis tanné, vas-y.
Dans l'univers de la technologie, en 1898, c'était la découverte du radium par Pierre et Marie Curie. Hein, donc, le 22 décembre, le lendemain, Pierre Curie se demande pourquoi il y a un bras qui lui pousse dans le dos. Le 23 décembre, les leaders mondiaux se demandent comment ils pourraient se servir la découverte pour faire des armes.
Je pense qu'ils pourraient servir du petit bras qu'il y a dans le front. Pour weaponize le petit bras qu'il y a dans le
front. Weaponize le petit bras qu'il y a dans le dos, ouais. 1937, premier film d'animation en couleur, premier long métrage de Disney, qui était Blanche-Neige. Mm-hmm. Blanche-Neige des sept nains. 80 quelques minutes, je pense, le premier long métrage vraiment de Disney. 22 décembre, hein, le lendemain, première parodie 3X d'un film de Disney. Blanche-Neige et les sept nains.
Je serais allé avec les 14 mains.
Les 14 mains, ah, c'est bon. Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Hein? Hein? Je les ai pas toutes vues. 1968, on dirait que c'est aussi une thématique qui revient souvent, lancement de la mission Apollo 8. Apollo 8 qui est le premier vol habité qui s'est rendu à la Lune. Là, ils n'ont pas atterri, mais ils ont quand même fait ils ont probablement fait des rotations autour de la Lune, là, si je ne me trompe pas. Il semblerait qu'ils n'ont pas vu les Transformers en faisant le tour de la Lune. Puis je me donne ça pour...
Pour toi ou pour les Transformers?
Pour les deux.
L'ensemble de l'œuvre.
L'ensemble de l'œuvre. Le film est ma blague de ce film. Sinon, au niveau du gaming, en 1995, c'est la sortie du jeu Waterworld au Virtual Boy.
Oh boy.
Donc un...
Voilà. Ben voilà. Ça faisait longtemps qu'on l'avait.
Donc, le port d'un film moyen sur une console qui n'a pas fonctionné, hein, ça devait être une grosse réussite, beaucoup de ventes probablement. En 98... Le jeu Starship Trooper Battle Space. Donc, encore une fois, un autre port qui devait pas être très bon d'un film qui était pas très bon.
Moi, je suis pas d'accord.
Non, j'avoue qu'il y avait un petit côté très, très drôle à...
Le film était cheesy. Il savait très bien.
Ben ouais, c'est ça.
Puis c'est tellement une critique de plein d'affaires.
Ouais,
il savait ce qu'il faisait.
C'était quoi déjà... So you wanna know more?
Ah oui,
les bulletins de nouvelles, là.
Qui... Oui, les bulletins de nouvelles. Non, mais j'avoue, c'est quand même un film qui est, il y a un petit côté intéressant, puis le mon Dieu, c'est la propagande dans ce film-là là, qui est écœurante.
Ouais, c'est ça, le fameux You Wanna Know More.
Oui, Patrick Harris.
C'est vrai, c'est NPH là-dedans.
Wow.
NPH de son petit nom.
Tu le connais bien. 98 aussi, sorti du jeu Baldur's Gate, le premier. Hein, quand même un classique pour ceux qui aiment le style. Je l'ai jamais fini parce que, genre, il y avait comme. Non, le premier avait 4 CD, je pense. Le deuxième en avait 7. C'était un peu n'importe quoi.
Tout le monde a joué, tout le monde a fait comme la première.
Personne n'a fini.
Tu es allé sur la route, mais il y a une auberge, puis comme un combat qui éclate, puis tu te tapes.
C'est là. Et voilà. Sinon, en 2001, un jeu qui n'est pas super connu, puis peut-être qu'à un moment donné, je pourrais en parler. Le jeu s'appelle Giants Citizen Kabuto. Au PS2, là, pour la version en 2001 là, du 21 décembre. Moi, j'ai beaucoup joué à l'ordi à ce jeu-là. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose de le fun dans ce shooter-là. Un shooter vraiment comme un peu ridicule avec des aliens hyper cartoony. Donc, quand j'ai vu ce titre-là dans ma liste, j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'en parle. C'est un des jeux que j'ai beaucoup aimé à l'époque de mon cégep.
Non, mais c'est un jeu que tout le monde parlait quand ça sortit. Ça.
Ouais.
C'était comme, c'était du shit, fallait que tu joues à ça, mais j'ai pas joué.
Ah, c'est ça, moi non plus.
Mais coudonc.
Eh bien.
Donc, voilà pour aujourd'hui dans l'univers des Divan Quest. Blade and Steel.
Pour mon segment cette semaine, je profite un peu de la tribune qu'on a pour parler de quoi d'autre. Parce qu'un des plaisirs de faire un podcast, c'est d'avoir la possibilité de parler de tous les sujets sans aucune censure. Puis évidemment, pour Divan Quest, on parle principalement de jeux, de techno, puis de trucs geeks. Mais des fois, il y a des choses qui se situent à l'intersection de tous ces intérêts-là. Mais pas forcément dans le but de nous divertir, mais... Puis d'en parler, c'est plus un service public que du divertissement, comme on s'occupe de faire habituellement. Mais il y en a qui arrivent comme ça, puis je pense qu'il vaut à peine d'être discuté. Fait que cette semaine, cet épisode, j'aimerais parler de ce qui est en train de se passer un petit peu en Chine, d'un côté très, très technologique, puis qui touche un petit peu à tous ces champs d'intérêt-là indirectement. La Chine est en train d'élaborer un système qu'ils appellent le SCS, c'est-à-dire le Social Credit System, donc le système de crédit social, en vue d'une mise en ligne pour 2020. Un système de crédit social. Donc, pas juste une évaluation de la capacité d'emprunt des Chinois, mais une évaluation de leur valeur sociale. Pour manque d'une définition qui serait plus claire. Fait que je vais essayer de vous décrire ce que ça représente en quelques lignes, là. L'idée est de puiser dans plusieurs sources d'informations. Les achats en ligne. En fait, je devrais dire vos achats en ligne, parce que considérons que c'est du monde, là, comme vous et moi, qui se retrouvent ciblés par ce système-là. Vos achats en ligne, vos fréquentations et vos amis.
Oui, particulièrement, tu dis, oui, moi, ça me prend un peu de temps de réagir, mon cerveau est au ralenti. Hein. Particulièrement les gens qui ont une présence en ligne, tu sais, qui font des achats, qui ont un peu plus d'interaction en ligne, justement. Là.
C'est ça, puis même à ça, en fait, une présence en ligne, que ce soit de médias sociaux ou d'achats en ligne.
Oui.
Mais bref, on va mieux le définir. Donc, vos achats en ligne, vos fréquentations, vos amis, le nombre de points sur votre permis de conduire, pour déterminer tout ça, et d'autres facteurs sont utilisés pour déterminer si vous êtes quelqu'un de fiable. Pas juste à quelqu'un à qui on peut prêter de l'argent, comme on pourrait s'attendre d'un système de crédit, mais aussi à qui on peut donner tel ou tel type d'emploi ou permettre de voyager. Bref, un système qui permet de déterminer vos opportunités de vie, comme défini le document officiel du SCS.
Je serais dans la merde.
On serait dans la merde avec le podcast de moi.
Puis cette information-là n'est pas si récente, mais ce qui a amené ça comme dans l'œil un peu de tout le monde récemment, c'est qu'il y a des systèmes qui sont entrés en ligne, puis bien qu'ils ne soient pas liés directement au gouvernement chinois, semblent s'aligner parfaitement dans le but du SCS. Les détails des systèmes ont fait une preuve d'une ingéniosité assez effrayante à utiliser des concepts de jeux vidéo pour favoriser certains comportements. Puis c'est là aussi qu'on se retrouve un petit peu dans à force d'étudier les jeux vidéo puis de s'intéresser à ces choses-là, qu'on se rend compte à quel point c'est ce qui nous accroche à un jeu, ce qui nous motive à avancer dans un jeu, peut être utilisé d'une façon qui est orwellienne, qui va, bref, essayer de nous guider de façon consentante à des comportements.
Mais tu sais, c'est le concept du score, des progressions. Pourquoi je trouve ça drôle, le site Trudeau Watch, le Trudeau Mate, tu sais, c'est un peu ça. mon système que j'utilise pour faire mon to-do list, ben c'est pas pour ça que je l'utilise, parce qu'il fonctionne bien pour faire de la synchronisation entre les différentes plateformes, mais il y a un score là. T'sais, plus que je clique d'affaires dessus, plus que mon score augmente, puis
c'est ça, ouais.
Ben, c'est le concept, mais c'est littéralement utiliser les techniques de design puis de social gaming que tu sais par des World of Warcraft puis des jeux comme ça.
Exactement.
Mais pour influencer ta vision d'un parti politique puis tes opinions politiques.
Il y avait un to-do list que j'ai utilisé pas tellement longtemps là, parce que c'était pas super efficace, mais qui le poussait encore plus au niveau où est-ce que quand tu faisais des actions, des to-do, là, tes listes, tu cochais des trucs, tu montais des levels puis tu peux pogner du loot qui servait à rien autre que de mettre sur ton bonhomme. T'avais un bonhomme qui était vraiment une feuille de personnage style Donjon Dragon, puis là tu faisais le ménage, tu sais, que tu cochais, puis regarde, t'as pogné une poignée du loot, t'as pogné une épée. Tu sais.
J'espère quasiment que ça s'appelait To-Do Quest.
Probablement. En fait. Je vais essayer de regarder pendant que mon continue.
Ça serait le gag d'opening.
C'est qu'on va en parler la prochaine fois.
Mais, puis en fait, full disclosure aussi, là, on est tombé là-dessus. Moi, puis JF surtout, on étudie beaucoup, ben, c'est de façon comme hobby, là, mais tout ce qui est game design, tout ce qui est conception de jeux de société, jeux vidéo, etc. Toutes les règles qui régissent le jeu, ou bien concevoir une expérience de jeu. Puis il y a un channel sur YouTube que je vous recommande, sans aucune hésitation, qui s'appelle Extra Credits, avec un Z pour mieux le trouver sur YouTube. Qui parle toujours de sujets de game design. Bref, ils parlent de jeux et de design de jeux de façon académique. Puis cette semaine, ben, ils ont pris le mandat de parler de tout ça parce que ça regroupe beaucoup des sujets qu'ils ont couverts. Puis bref, ça représente un peu le côté néfaste de vouloir utiliser ces techniques-là. Puis on repassera pas sur le terrain qu'eux couvrent parce qu'ils font un beaucoup meilleur job qu'on va pouvoir faire ici. Mais pour tout mettre en contexte les dangers de ce système-là au niveau de l'appropriation des techniques de jeu, allez voir leur canal YouTube. Ils vont faire une beaucoup meilleure job que je peux le faire ici. Cela dit, un des premiers systèmes qui a été mis en place pour expliquer s'appelle Sesame Credit. Puis c'est le système qui a beaucoup attiré l'attention là, des gens.
Puis c'est le nom de vidéo de Extra Credits aussi.
Exactement. Ça a été mis en place par la compagnie Alibaba. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec Alibaba, son propriétaire est, si je ne me trompe pas, présentement l'homme le plus riche du monde. Ou quelque chose dans ce range-là. Excusez du manque de rigueur, mais c'est... ça fait beaucoup d'argent. Okay? Ce qu'il faut comprendre d'Alibaba, c'est que c'est une des plus grosses entreprises au monde qui offre un système de paiement sécurisé le plus utilisé en Chine, qui s'appelle Alipay.
Puis en Chine, on s'entend qu'il y a beaucoup de monde.
On parle de 350 millions d'utilisateurs pour cette plateforme-là. Puis ils ont aussi la plateforme de vente en ligne qui rivalise avec Amazon et eBay pour la variété des produits qui sont disponibles.
En fait, le fondateur d'Alibaba s'appelle Jack Ma. Et il est le 18e plus riche au monde, bon, avec un net worth estimé de 24,1 billions.
Selon Donc, milliards.
Donc milliards.
Milliards. Wow.
Bref.
Travaille pas pour la fonction publique.
C'est le plus riche en Chine.
Ah, voilà.
Voilà.
C'était ça le plus qui traînait. Alibaba, c'est ce que beaucoup de Chinois achètent finalement.
Ouais.
Avec beaucoup de détails. La façon qu'ils utilisent pour l'acheter. Puis il y a tellement de produits couverts par leur système AliExpress puis Alibaba que...
Ah, oh, AliExpress, c'est...
Oui, c'est le, ouais. Dans le fond, Alibaba, c'est une plateforme de vente en gros.
Okay.
Puis AliExpress, c'est unitaire ou proche de unitaire. Fait que c'est la même compagnie en réalité, c'est juste différents modèles de vente. Puis, justement, en utilisant toutes les informations qu'ils ont là, ben en fait, finalement, je vais citer Li Yinggun, qui est le directeur technologique pour Sesame Credit. Et je commence. Quelqu'un qui joue à des jeux vidéo 10 heures par jour, par exemple, sera considéré comme inactif. Et quelqu'un qui achète fréquemment des couches est probablement un parent, et donc plus probable d'avoir un sens des responsabilités.
Ou quelqu'un qui joue 10 heures par jour. Il peut acheter des couches aussi.
C'est pas drôle, ça.
Okay.
Bref, on voit un petit peu justement le genre de d'inférence,
ouais,
finalement, qui est fait entre la donnée et le type de comportement. Puis, il faut considérer que tout ça est utilisé pour classer. Donc, quelqu'un qui va être classé inactif va être classé négativement par rapport à quelqu'un qui est parent, donc qui est responsable. Donc, fait que ça ne s'arrête pas là, justement. Le système de score, Sesame Credit, est basé sur 5 facteurs. L'identité, la capacité contractuelle, l'historique de crédit, les connexions interpersonnelles et les préférences comportementales.
C'est ce bout-là qui m'a fait le plus flipper quand j'en ai entendu parler.
Et voilà. On s'entend là. C'est vague comme terme, là. Connexion interpersonnelle et préférence comportementale. Fait qu'en prenant ces facteurs, en compte, on obtient le score Sesame Credit, qui est entre 350 et 950. On pourrait passer beaucoup de temps là, sur ce que ça veut dire, là. Mais bref, le côté qui est aliénant de ça, c'est l'idée que le fait d'être ami avec quelqu'un sur les réseaux sociaux peut affecter ton score. Donc, si tu as quelqu'un qui a un score plus faible dans ton entourage, ça va affecter négativement ton score. Donc, de t'affilier avec quelqu'un qui a un mauvais crédit, sure, travaille pas, ok, fine, mais qui peut émettre des opinions impopulaires. Puis qui peut. Et qui lui aussi a des amis qui sont pas forcément des travailleurs ou qui sont des gens inactifs, etc. Ça peut affecter le système. Fait que déjà dans cet état très très embryonnaire, le système récompense ceux qu'il juge positivement. Donc, si on a un score de plus de 650, on peut louer une voiture sans avoir à laisser de dépôt. Ok, cute. À 700 points, on peut obtenir un traitement VIP accéléré de notre demande de permis de travail pour aller à Singapour. Et à 750 et plus, on peut avoir un traitement VIP accéléré de notre demande pour le visa Schengen, qui est très très convoité parce qu'il permet de voyager en Europe. Donc on voit là que si on est considéré un bon citoyen, on s'entend, par un système privé à ce moment-là, on a quand même des bénéfices.
Puis on se rappelle que si t'as des amis qui n'ont pas des bons scores, ça fait baisser ton score.
Exact.
Ouais, mais ça va juste mener à ostraciser ceux qui n'ont pas la même vision que toi ou ceux qui ont pas, qui pensent pas comme le reste du gouvernement. Ils vont se ramasser tout seuls, pas d'amis. Puis...
Ben c'est ça, sauf que présentement, c'est des systèmes qui sont privés. Donc, les soucis qui parlent là, de quel emploi on pourrait avoir, des trucs comme ça, c'est pas applicable présentement. C'est des lignes qui sont suggérées par le SCS, mais qui font pas partie des systèmes qui sont en place. Donc, il faut faire attention un petit peu à ce qui est relevé dans la vidéo d'Extra Credits, parce que l'information est un peu agglomérée, puis il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est mal documentée présentement sur le net à ce sujet-là. Mais il faut pas mélanger les deux. Le système Sesame Credit, ouais. Et plus tard, je vais parler du système de crédit de Tencent. Dans les deux cas, ce n'est pas directement relié au gouvernement. On va parler un peu plus de ce que ça implique plus tard, mais c'est bien et c'est mal, finalement. Fait que c'est ça, de façon encore plus insidieuse que les bonus de points, parce que présentement, c'est que du renforcement positif. On reçoit des bonus à bien performer. Mon père n'a rien à mal performer. Bon. Fait que ça, dans ce cas-là, t'es comme, bon, fine, ça va. Mais de façon plus insidieuse, l'application encourage même à mettre sur vos photos, sur les réseaux sociaux, un badge avec votre score pour montrer à tout le monde à quel point vous êtes un bon citoyen. Aïe, aïe. Et un bon citoyen et, je dirais même, un bon coup. Parce que oui, le site de dating Bio encourage fortement la divulgation de votre score, Sesame Credit. Avec un peu de recherche, on tombe justement sur des sites où ça en parle. Même des vidéos des gens qui sont interviewés dans la rue puis qui parlent à quel point c'est important d'avoir justement cette information-là. Pour
dater. Ben oui, tu veux pas dater quelqu'un qui a pas un bon score. Voilà.
Fait qu'on transforme, là c'est plus au niveau social, là, mais l'idée d'une cote de crédit c'est quelque chose d'excessivement privé dans le monde occidental, tandis que là on veut en faire quelque chose de public. Que ton identité, comment t'es bien vu socialement et au crédit.
Tu deviens le numéro public. Là.
On te flague, t'es un alpha, t'es un bêta, t'es un.
C'est très drôle parce qu'il y a. Mettons une coupe d'expansion à voir, il y a comme des add-ons qui sont mis à scanner des chiffres, des nombres qui n'étaient pas, mettons, publics. Ben, public. Ils n'étaient pas display là, sur ton bonhomme qui parlait de ton score de ton gear. L'add-on, là, ça s'appelait Gear Score. Puis le monde se mettait à scanner, ben ton Gear Score il est trop pas bon, je t'invite pas dans mon groupe. Puis ça fait des tollés. Le monde disait, hey, mon gear score, ça me dit pas à quel point je suis un bon joueur ou mauvais joueur, ça dit juste j'ai du bon gear. C'est tellement drôle, c'est le même petit principe.
Fait que ton gear score, s'il est pas assez haut, tu t'assieds en arrière dans l'autobus.
Tu t'assieds en arrière dans l'autobus, tu vas pas faire des. Tu sais, c'est le même concept, mais on s'entend là, dans un jeu, dans WoW, on s'en fout un peu. Mais ça a quand même soulevé des passions. Puis là, tu parles d'une affaire qui est dans la réalité, puis. Ben, écoute, ça doit soulever des passions, mais on dirait. Puis c'est peut-être une vision qui est hyper comme limitative, mais on dirait que ça fait pas soulever ton nombre, puis on trouve que c'est normal qu'on ait un score pour.
Mais comme tu disais, là, présentement, c'est pas, tu sais, c'est privé. Puis comme tu dis, l'information sur Extra Credit, c'était pas toute claire ou précise. Mais je sais pas si ça, c'en est c'est clair ou précis. Mais ce qu'il disait, c'est que c'est opt-in, fait que c'est sur une base volontaire présentement.
Exact.
Mais qu'en 2020, il veut que ça devienne quelque chose de plus.
Sauf
officiel.
Que. Ben, encore une fois, il faut bien mélanger les systèmes. Le opt-in, c'est pour des systèmes qui sont privés. Bon. Mais le fait est qu'ils ont quand même toute cette information-là dans les mains, ces compagnies-là.
Mais que ce soit opt-in, ça veut dire que les gens qui vont embarquer dans ce système-là au début, c'est des gens pour qui ça va être profitable. Donc, c'est les gens qui ont déjà une idée favorable du système, qui vont avoir un bon score, qui vont s'impliquer dans ce jeu-là. Fait que le jour où ça devient grand public, mais tu as déjà tes ta publicité se fait toute seule parce que tes users vont te vendre une image positive du système.
Puis les bonus.
Là, les autres vont embarquer. Puis après ça, ben là, la game va changer.
T'as les portes étendard de ton c'est produit. Ça. T'as les gens qui trouvent que c'est une bonne idée. Sure. Puis ça va être des gens qui, justement, ont de l'argent, ont une bonne job, sont pas inquiets, justement, de leur standing dans la vie. Puis ils vont être comme, justement, des gens qui attirent l'attention puis qui justement, sont bien placés pour propager des idées comme ça.
Ça fait capoter. J'ai de la misère avec le système style ajusto là, pour les assurances de char parce que je trouve que c'est Big Brother. Mais Colin, c'est soft. Hein, quand tu compares...
Voilà. Fait que, bref, pour revenir à notre point, justement, au côté privé-public de la situation, fait que même, supposément, sans intervention du gouvernement, on a un système qui encourage les gens à bien agir puis qui va même vous encourager à vous distancer de ceux qui agissent moins bien. Fait que l'idée qu'ils puissent puiser dans les réseaux sociaux pour vous évaluer, ça, c'est quelque chose qui est déjà en place. Mm-hmm. Pas par Alibaba, par contre. Pas par le système de ses amis Credit en soi. C'est Tencent, compagnie financière chinoise majeure, qui sont propriétaires d'ailleurs de compagnies de jeux vidéo.
Mais qui ont des actions dans Activision Blizzard, ils ont des actions ben, dans juste Riot Games, Riot qui fait League of Legends, ils ont des, plein de jeux qu'on connaît aussi et qu'on utilise beaucoup.
Bref, dans beaucoup de jeux qui sont joués même ici.
Mm-hmm. Bref, c'est des actionnaires. Fait qu'ils ont du fric, ils peuvent acheter des actions. C'est le principe du marché ouvert. Hein.
Puis, ils examinent déjà les réseaux sociaux pour attribuer les codes de crédit chez Tencent. Fait que quand on voit que ces amis Credit mentionnent connexion interpersonnelle et préférences comportementales comme facteur déclenchement, c'est pas difficile de voir où ça peut aller. Où c'est déjà, mais qui peut être dans leur facteur non mentionné. Fait qu'en réalité, même sans le gouvernement d'impliquer, le pouvoir qui est dans les mains des corporations est aussi effrayant. Fait qu'on on a tout le temps peur du fameux gouvernement chinois, etc., mais une corporation, c'est une corporation, là.
Donc, Shadowrun maintenant, là, ou
juste ouais, c'est très, très dystopien.
Ah, c'est écœurant, là. On a l'impression d'être encore dans notre épisode sur...
on dirait que dans ton résumé de Shadowrun...
Oui, on dirait que je parle encore, moi.
J'allais dire, justement, je serais pas surpris qu'on y soit encore autant qu'il a duré. Fait que c'est peut-être juste j'ai une chronique dans ton segment.
Écoute, c'est un petit segment.
Fait que cela dit, il y a beaucoup d'informations, comme je disais là, qui est mal rapportée sur le sujet. Fait que j'ai essayé d'en faire la description, la plus propre possible, en évitant les conclusions hâtives et les fausses associations. Mais même en s'en tenant au fait, le portrait est déjà suffisamment orwellien.
Je fais un petit retour pour nous remonter un peu le moral. le to-do list dont je parlais tantôt s'appelle Epic Win. Ah, il a l'air d'être encore là, mais en cherchant, il y en a un qui s'appelle Quest, Level Up Your Life. fait que...
Hey, ça passe pas, ça.
Donc, fait
que,
voilà.
Fait que, excusez pour le segment d'honneur. Fait que, GF, ça va être ta job de nous remonter le moral.
Go.
Réflexion.
Sur la semaine. Et oui, enfin... c'est le moment de l'enregistrement. Oui?
Enfin, on est arrivé à ton moment de la réflexion.
Ben, on a fini ton segment. Non, mais c'est le moment de l'enregistrement où je me permets de vous faire voyager avec moi dans les dédales un peu sombres de mes réflexions hebdomadaires. Mais.
Bi hebdomadaire.
Cependant.
Oui.
Je voudrais d'autres synonymes. C'est pas sans une certaine humilité que je dois avouer avoir eu de la difficulté à écrire le segment aujourd'hui. Non pas parce que j'ai tenté de m'abstenir d'insérer des blagues à saveur phallique à outrance, mais plutôt à cause de l'éveil de la force qui a occupé la majeure partie de mes neurones depuis le dernier enregistrement. Donc, évidemment, comme on le rappelle chaque matin, le sapin et la toile représentant le Faucon Millenium dans mon salon, c'est impossible ce mois-ci de ne pas porter ma réflexion vers Noël qui avait lieu la semaine dernière, soit le 18 décembre, comme on le sait très bien.
Le Faucon là-dedans.
Le Faucon, mais c'est parce que le 18 décembre, c'était Noël.
Ah, okay. Notre Noël.
Ouais. Noël. Mais c'est ça, j'y arrive parce que Noël, c'est une fête qui est bien particulière parce que, comme nous l'a démontré James Bond dans The World Is Not Enough, Noël peut venir plus qu'une fois par année. Donc, cette année, en effet, on a la chance de vivre non pas un, mais bien trois Noëls, à savoir évidemment le Noël des campeurs pour les conducteurs de Winnebago.
Les gens qui habitent près de certains terrains de camping.
Quand même, voilà. Tu connais, Danny. le Noël officiel qui a lieu le 18 décembre cette année.
Officiel, ça passe pas, ça.
Et l'autre Noël. Raisonnable. Et l'autre Noël. OK, ça c'est. Et l'autre Noël qui sert à aviser les employés de Walmart que le temps est venu de sortir les cœurs à cannelle et le chocolat du backstore.
Il est comme en novembre.
Oui, en novembre.
Mais cette année, c'est une année qui est bien particulière, par exemple, pour les amateurs du Noël standard ou vanille. Parce que le 25 décembre 2015 va avoir lieu un événement particulier qui s'est pas produit depuis la dernière fois où on a vécu une autre année, un autre Noël triannuel, en fait, soit en 1977, alors qu'un autre Star Wars, l'original, cette fois-ci, était à l'affiche au cinéma plus tôt dans l'année, et qu'un différent Trudeau était premier ministre. Je parle, bien entendu, de la pleine lune de Noël.
Oh!
Ben oui, qui est vraiment c'est un événement qui est notable du fait qu'il y en a eu seulement trois au siècle dernier, soit en 1901, en 1920 et en 1977.
Hey, t'es en train de me voler ma job?
Non, enfin, je suis un bridge entre les deux. C'est pour montrer notre belle chimie. Donc, si jamais vous devez voyager vers une galaxie très, très lointaine pour le travail cette année en date du 25 décembre, sachez que vous devrez malheureusement attendre jusqu'en 2034 pour revivre une si belle occasion. Malheureusement, si la tendance se maintient, en 2034, il n'y a aucune chance de vivre un Noël blanc sous la pleine lune. Si jamais le phénomène de la pleine lune de Noël, ça vous semble pas suffisamment intéressant, mais je vous recommande la pleine lune du 25 décembre 2307, qui, elle, va coïncider avec une éclipse lunaire. Donc, à ne pas manquer.
J'ai déjà hâte.
Je me prends les billets.
Évidemment, la possibilité de Noël blanc sous la pleine lune, ça m'a, comme on s'en doute, rendu émotif. Et qui dit pleine lune dit sans conteste lune de miel. Je me suis donc interrogé, évidemment, sur la relation parfois difficile entre les jeux vidéo et le mariage.
C'est écœurant à quel point ça va venir pour tout.
On dirait un intro d'épisode des Simpsons. J'ai ça me passait, j'ai l'impression. Que...
Non, mais c'est un bon...
Suivez pas, les gars, vous suivez pas.
Sans surprise. C'est un peu dur.
Je rappelle qu'on a dormi quelques heures.
Arrêtez de m'interrompre et écoutez, vous allez comprendre.
Non.
Fait, oui, sans monsieur. Surprise, il y a plus qu'un mariage a été brisé par l'industrie du jeu vidéo. Mais quand il s'agit d'une passion qui est partagée entre les deux partenaires, le jeu, ça peut devenir une occasion de passer du temps ensemble en dehors des tâches ménagères ou de l'étrangement frigide Netflix, d'où je suppose le populaire dicton Netflix and chill.
Dicton.
Dicton. En 2012, une étude a été faite sur les joueurs de World of Warcraft et parmi les 12 millions de joueurs, le tiers était marié. Et 74, les autres étaient pas
l'autre
mariés.
L'autre deux tiers souffraient de dysfonction érectile. C'est pas drôle, ça.
Éditorial?
Éditorial!
Donc.
Même plus capable d'avoir ses propres émotions, ça n'a pas d'allure.
Donc, parmi les 12 millions de joueurs, le tiers était marié et 74% des couples qui jouaient ensemble ont affirmé que le jeu avait une influence positive et que ça solidifiait leur mariage. Ce qui est quand même, on peut dire. Fait cocasse!
C'était pas ça, fait cocasse?
74%. Il y a comme pas de gag qu'on peut faire.
C'était pas drôle, c'était des statistiques. On rit pas des statistiques, c'est les mathématiques. Donc, fait cocasse, l'amour ne connaît pas de frontières. C'est le cas du japonais Sal 9000 et de sa femme Nene Anegasaki. Donc, Sal 9000-san. Pas facile. Il décrit sa femme, en fait, comme une jeune femme intelligente, aux yeux de biche, qui possède un look parfait dans ses jupes sexy. Elle est toujours prête à répondre aux divers besoins de son conjoint et ne cherche jamais la bisbille. Madame Anegasaki est aussi un personnage vivant dans un jeu vidéo pour Nintendo DS qui s'appelle Love Plus.
C'était clair.
Ce qui n'a pas empêché Sal 9000 de la marier dans le cadre d'une cérémonie en ligne devant plusieurs milliers de fans. Donc, des amis et la communauté Internet qui ont pu assister à son mariage.
Il était vraiment là ou il était juste logué sur l'application en ligne pour rester au mariage?
Ils se sont mariés en ligne.
Mais on peut pas rire. Hein? Je vous rappelle qu'au Canada, on a un gars qui a marié un double down. Là.
Ben oui, mais comment ne pas apprécier cette
non.
contraption de poulet non. et de cholestérol et d'arrêt cardiaque qui attend de survenir?
Voilà. Tu peux le marier quand même.
Voilà.
On porte pas de jugement ici, ça, dis-moi quoi.
J'ai juste décidé de marier mes artères en place.
Tout est marié avec la poutine de l'Albion.
Charlotte, la poutine de l'Albion. J'en ai fait un Charlotte à mes artères, mais rendu là.
Mais, bien entendu, les médias y ont bombardé d'entrevues le pauvre couple et Sal 9000 s'est fait un devoir d'expliquer qu'il était parfaitement conscient des origines de sa dulcinée, spécifiant que celle-ci était cependant beaucoup mieux que ses penchants japonaises. Donc, la situation semble plutôt encourageante, puisque Sal 9000 semble communiquer quand même suffisamment bien pour pouvoir livrer une entrevue à CNN. Donc, il n'y a absolument rien à craindre pour la survie de l'espèce. comme vous le savez...
Ah oui?
Ouais, je suis rendu en bas de ma page, juste que je descende le texte, puis mon trackpad ne marche plus. Comme vous le savez, depuis des siècles, l'homme a cherché des façons de plus en plus créatives de faire la grande demande à l'élu de son cœur, et le jeu vidéo n'a pas été mis à l'écart. Par exemple, Un employé anonyme de BioWare a déjà utilisé le monde de Minecraft et écrit en lettres géantes faites de lave les mots « marry me » point d'interrogation, et construit un jonc de mariage tout aussi gigantesque. Selon mes sources, la chanceuse aurait accepté, mais ne peut toujours pas porter son anneau puisque les personnages du jeu n'ont pas de main. Mais pour terminer ce segment sentimental et émotif, l'utilisateur YouTube The Real Freak, c'est P-F-H-R-E-A-K, si jamais vous voulez le suivre sur YouTube. Quant à lui, il voulait poser le genou au sol au sommet du mont Baker à Washington, puisqu'il avait emmené sa copine lors de leur première sortie se promener sur cette montagne-là. Malheureusement, il n'a pas trouvé d'occasion suffisamment anodine de faire le voyage et il a plutôt choisi de pirater une copie du jeu Chrono Trigger pour recréer la montagne et faire sa demande. L'histoire ne mentionne pas la réponse de la demoiselle, qui a dû cependant grinder son chemin jusqu'au sommet de la montagne pour obtenir un anneau qu'elle va de toute façon échanger pour un meilleur dans quelques niveaux.
You.
Mon Dieu, mais quel lien avec le thème de Chrono?
Oh, on dirait un segway.
Donc, à quelques jours de Noël, moi, je me suis dit que rien de mieux, hein, pour se mettre dans l'esprit des fêtes que de s'enrouler dans une couverture puis s'écraser devant la télé.
Et avec... de ne pas penser au système de crédit social.
Aussi. S'écraser devant la télé, oui, avec une manette dans les mains. Hein,
ah.
Ouais, voilà. Et de ne pas penser au système de crédit social. Je me suis dit, il doit bien exister des jeux de Noël. Hein. Je me suis dit, même qu'en 25 ans, j'en ai pratiqué, j'en ai pas qui me viennent en tête rapidement comme ça, en 25 ans de gaming peut-être, là, j'ai pas 25 ans. J'en ai jamais vraiment vu. Fait que je vais faire une petite tournée un peu, j'ai fouillé un peu, puis j'ai essayé de faire une tournée des jeux avec une thématique de Noël que j'ai pu trouver en fouillant les interwebs. Je vous dirais, là, j'ai pas comme une liste exhaustive de tout ce qui existe. J'essaie de peut-être prendre ceux qui sont intéressants ou percutants ou quelque chose de particulier. Donc, j'y vais avec ça. Petite parenthèse, là. Je voulais pas parler des jeux là, qui sont basés sur des films qui se passent dans le temps des fêtes. Parce que là, j'aurais pu parler de Die Hard, j'aurais pu parler de Batman. Voyons, c'est lequel, Batman
Le deuxième, là.
Batman Returns.
Batman mm-hmm. Returns, merci, excusez. Puis, genre de Home Alone, là. J'ai décidé plutôt de parler des jeux qui étaient.
Tous même pas parler des jeux de Home Alone, c'est pas riche.
On a oublié Kevin.
Je m'en allais essayer de dropper. C'est quoi la quote dans Batman Returns? C'est It's Christmas. What, it's Christmas? Yeah, didn't you get the memo?
Bref, j'ai décidé que c'est pas là que je voulais aller. Enfin, qu'on va arrêter avec les blagues plates, là, puis on va arrêter le pod.
Ouais, c'est ça. On s'en va dans deux semaines.
Donc, j'ai préparé une belle petite liste de suggestions de jeux hein, qui vont vous mettre dans l'esprit des fêtes, mais pas de garantie. Donc, on part avec des jeux qui existaient déjà, mais on décide de faire une version de Noël ou de faire un démo, mettons, avec une thématique de Noël ou de reskiner certains niveaux pour Noël. Truc comme ça. Je commence avec Christmas Lemmings. Connaissez Lemmings?
Ben oui.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, l'idée, c'est que tu guides des petits Lemmings. Puis dans le fond, les premières versions, c'est une coupe de pixels, les Lemmings. Là, c'est vague. Bref. Une gang de Lemmings, tu veux les guider vers une sortie, donc en leur donnant des ordres là, de creuser, de faire des ponts, de faire des escaliers pour bon, te rendre à la sortie. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être crever en chemin, mais c'est pas grave. C'est...
Bref, c'est comme construire des chemins de fer.
Voilà. C'est comme dark, un peu comme
tutorial, hein?
Ouais. Bref, c'est pas jeune, c'est assez vieux, mais c'est un bon petit puzzle game quand même, Lemmings. Ils ont fait quelques versions avec une thématique des fêtes en changeant le look du jeu. Dans le fond, au lieu d'être dans une caverne, ben, tu es dans une caverne, mais où est-ce qu'il y avait de la neige et des lumières de Noël. C'est souvent ça, vous allez voir. Mais en plus du look, ben, ils ont quand même fait des petits efforts pour ça.
Mais c'est donc bien peu agréable.
Hein, c'est tellement agressant pour les tympans.
Vous comprenez que les trois quarts de mes drops musicaux vont être agressants pour les tympans.
Une chance qu'on n'est pas dans un média audio. Ça serait vraiment désagréable.
Ça serait désagréable. Donc, ils ont sorti comme quatre versions de Christmas Lemmings. En 91, on a une première démo qui est sortie. Oui, quatre.
Ça traîne pas vite.
Première démo, quatre niveaux sur DOS. En fait, la démo avait deux niveaux de Noël puis deux niveaux qui étaient du jeu de Lemmings, là, au No More Lemmings. Mais bon, hein, on considère quand même que c'était une démo de Noël. En 92, on a sorti une autre démo l'année d'après pour DOS encore, mais aussi une version pour Amiga, pour Mac, avec quatre niveaux cette fois-là, tous de Noël. En 92, ils ont sorti un jeu complet là, qui se vendait de... c'était, je pense qu'il était Xmas Lemmings, là, c'était faire une grosse différence. Là. En 93, on commençait à avoir un petit côté... hip. Donc encore une fois sur DOS, puis le jeu en 94 est devenu gratuit un an plus tard, puis en 94 ils ont sorti encore une fois un autre jeu complet thématique Noël de Lemmings. Donc, si vous voulez les essayer, sur lemmingsuniverse.net, les trois premiers jeux sont là en totalité. Ben, les trois premiers jeux, les deux démos de quatre niveaux, puis le jeu de 93 est là au complet, parce qu'ils sont tous rendus gratuits. Puis le jeu de 94, le démo est là aussi gratuitement. Donc, si ça vous tente d'essayer Noël avec peut-être pas de son ou une autre, un autre audio, ça pourrait être intéressant. Change de style un peu. Je reste dans les mêmes années. Le jeu Jazz Jackrabbit Holiday Air. Donc, Jazz Jackrabbit, un jeu de 94 qui est un platformer avec un lapin de l'espace là, qui court vite comme Sonic, mais qui a un gun qui fait des...
Piu, 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 piu.
Développé par Cliff...
Cliff Bleszinski.
Bleszinski.
Qui, voilà, qui est le créateur d'Unreal et de tous ces
Gears of War.
Ah, Gears of War, oui, c'est vrai, ouais. J'avais entendu. J'avais comme pas enregistré toute l'information. Donc, le jeu en 94 est sorti. C'est un jeu avec comme 6 épisodes. Dans le fond, ils ont fait des ajouts par la suite sous forme de shareware. Puis, il y a eu deux ajouts thématiques en 94 et en 95, des thématiques de Noël où, dans le fond, les planètes, parce que dans le jeu, les différents mondes, c'est différentes planètes, les planètes où tu vas ont un style Noël, avec encore là des cannes de Noël puis des petites lumières. Puis, encore une fois, la musique vaut la peine, mais un peu moins agressante cette fois-là.
Espérons-le.
Il me semblait qu'il y avait un bout de musique de Noël, je l'ai même pas mis en tout cas.
Mais c'est très drôle parce qu'en plus, Cliff Bleszinski a toujours été très très ouvertement contre le grunge. Mm. Il déteste le grunge profondément, c'est très grungy.
Le bout que j'ai coupé de mon propre drop parce que hein, on est comme ça, la grosse qualité, c'était genre le petit Renault rouge qui partait. Là, mais avec encore la grosse. Bref, voilà.
Mais ça, c'est dans la soundtrack du jeu,
ouais, du jeu. Oui, oui, c'est tout à fait la soundtrack du jeu. Donc, Jazz Jackrabbit, ouais, je vous le conseille peut-être pas de l'essayer parce que les contrôles sont particuliers. J'ai essayé un petit peu sur le site d'Internet Archive, là, archive.org, où on peut jouer un paquet de jeux de cette époque-là là, directement sur le site. Puis bon, il n'y avait pas les mondes de Noël, mais le jeu, ouf, le contrôle moyen. Mais en tout cas, quand même amusant. Sinon, un des jeux, peut-être qu'une des versions qui est les plus... J'allais dire connu, mais pas tant là, connu, mais niché. Fait que les gens qui le connaissent trippent et en parlent encore. Christmas Night Into Dreams.
Oh, oui.
Donc, du jeu de Sega Saturn en 96, là, Night Into Dreams, qui était un jeu d'un action game où le personnage s'appelait Night, qui est un personnage qui habite un univers qui s'appelle Nightopia, le monde des rêves finalement. Puis qui aide comme deux kids qui, en volant à l'intérieur de leur rêve, pour ramasser de l'énergie pour combattre un méchant, le méchant Wiseman. La drogue était forte en 96, mais bon. Mais quand même, le jeu là, a des très bonnes critiques pour le gameplay qui était vraiment bien. Puis ils ont sorti Christmas Night, justement, une démo de deux des levels du jeu qui ont reskiné, mais avec une histoire un peu plus et tout ça. Fait que les levels étaient déjà existants. Ils ont rajouté
le packaging
de Noël. Mais ce qui était intéressant, dans le fond, le jeu était packagé avec la console au Japon, puis en Amérique, était donné avec d'autres jeux, là, genre Daytona USA, puis dans des revues aussi, là. Il donnait aussi. En fait, le jeu était comme une version démo, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il était relié avec la date de la console. Si tu étais en novembre ou en janvier, le jeu était skiné avec de la neige. Fait que c'était le jeu habituel, les niveaux habituels, mais là, il y avait de la neige. Mm. Puis si tu jouais en décembre, c'est là que le jeu version de Noël était là, avec les lumières de Noël, puis tu lançais des boules d'énergie, ont l'air un peu plus des boules de Noël. Les espèces de cercles dans lesquels faut que tu voles pour ramasser des points, ils ont comme des guirlandes. Bref, c'est le skill total, tout le skin de Noël. Mais c'est vraiment relié avec l'horloge de ta console, finalement. Là, puis, donc, ça a un petit élément intéressant. Il semblerait qu'il y avait aussi des éléments pour l'Halloween, pour le Nouvel An, et même pour le 1er avril. Un peu du même principe avec des éléments supplémentaires.
Des poissons partout.
Genre des poissons partout, ça sent bon.
Ça sent bon.
Moi, j'ai pas eu de Sega Saturn, j'avais jamais joué à ce jeu-là. Semblerait que c'est un méchant bon jeu, là. Pas nécessairement même. Ben, oui, la version de Noël aussi, mais le jeu comme tel paraît que c'est vraiment un des très très bons jeux. Je crois qu'il y a une version pour PS2 aussi. Me semble que ça me dit quelque chose, j'aurais dû le noter. Bref, bon jeu avec aussi une petite thématique Noël là, de mélanger dedans. Dans les autres jeux, qui est peut-être un peu plus connu, mais que la thématique Noël est moins importante, Donkey Kong Country 3 au SNES en 94, il n'y a pas une version de Noël, mais il y avait une espèce de cheat que tu pouvais rentrer. Là, il y a un input de bouton qui te permettait de rentrer des cheats. Puis quand tu rentrais le cheat Mary à la sélection du tableau, là, la sélection de la game finalement, mm-hmm. Ça débloquait comme l'espèce de volet Noël. Puis quand tu pognais les tableaux bonus qu'il y a dans Donkey Kong Country, au lieu d'avoir des bananes à ramasser, c'était des petits cadeaux de Noël. Puis les étoiles étaient des genres de petites cloches. Puis la musique était la musique normale des bonus, mais avec des genres de sons de cloches puis tout ça. Fait que c'est comme une petite thématique. Des bonus qui étaient un peu thématisés, style Noël. Ça n'avait pas vraiment d'autre impact que ça.
C'est Mary?
Mary, là, comme dans Merry Christmas.
Merry Christmas. Okay.
M-E-R-R-Y.
Voilà. Donc un beau petit Easter, un beau petit Christmas egg.
Tout petit.
Dans le même style, vous allez voir Duke Nukem Nuclear Winter. Je sais pas s'il venait dans le bundle de 3D Realms qu'on a pogné. J'ai regardé vite puis je pense que non. Mais Duke Nukem Nuclear Winter, c'était vraiment une expansion pack là, pour Duke Nukem 3D en 97 sur DOS. L'histoire du jeu était écœurante. Le Père Noël a été capturé et brainwashé par les aliens de Duke Nukem. Donc c'est à Duke d'arrêter le Père Noël qui est brainwashé puis qui fait des mauvais coups.
Ça, c'est à l'aise, c'est à Duke de passer cadeau. That's a whole other game.
C'est mon meilleur concept.
Ouais, vraiment,
mais les cadeaux, c'est des balles dans ta gueule. Bon, voilà. À la Duke Nukem. Là.
Ou des piastres. Là.
Avec toute la finesse de Duke Nukem.
Toute la finesse. Donc ça doit être d'arrêter le Père Noël, de sauver le Père Noël, mais en l'arrêtant. Tu te bats contre les aliens, mais il y a des aliens qui ont des petits chapeaux de Noël ou des cornes de reine.
comme des pick-up là, pendant le mois de décembre.
Il y a aussi des bonhommes de neige. Puis il y a la milice plutôt des elfes féministes. C'est féministe Elven Militia qui sont les ennemis aussi là, de Duke là-dedans. Là, beaucoup de subtilité, hein, c'est Duke Nukem. Donc c'est les ennemis là-dedans, les féministes.
On fait dans la finesse.
On fait dans la finesse, encore une fois. Même les strippers ont vêtu leur plus beau sous-vêtement de Noël. Hein, leurs plus beaux sous-vêtements festifs ont des sous-vêtements là, comme rouge avec la petite fourrure blanche. Puis il y a des sapins de Noël dans le coin des clubs de danseuses. Mais
dans le buffet, il y a de la bûche.
Le point important, c'est de se rappeler que Duke Nukem, on se rappelle du jeu, hein, je pense que à peu près tout le monde a au moins vu le jeu. Imaginez Duke Nukem, imaginez-vous en train de jouer à Duke Nukem avec cette soundtrack.
Sérieux, là?
Tout à fait. Pris directement du jeu.
Pris directement d'un fichier MIDI qui ont créé ça dans le jeu.
Ouais, ben oui, là. Il y a eu un truc un peu similaire avec Saints Row 4, là, où est-ce que c'est un genre de DLC où est-ce que c'est When the Saints Save Christmas, quelque chose comme ça. J'ai décidé de ne pas regarder, je me suis dit, je vais rester dans le rétro un peu, mais c'est un peu l'idée là, d'un shooter qui a aucun style, qui a comme aucun lien avec Noël, puis de mettre une thématique autour de ça. Sinon, il y a aussi des jeux qui sont pas juste une thématique de Noël sur un jeu qui existe, mais qui sont vraiment des jeux de Noël. Il y en a pas des tonnes, puis c'est pas tout le temps très bon. J'en ai quand même là, ciblé quelques-uns. Le premier s'appelle Days Before Christmas. Là. Days, pas comme jour, mais Days comme D-A-Z-E. Là. Qui est un jeu qui est sorti sur Mega Drive en Australie, sur SNES en Europe et en Australie seulement. Jamais de sortie en Amérique. Un platformer, dans le fond, qui a été développé par Funcom, publié par Sunsoft, mais jamais ici. Où est-ce que tu joues le Père Noël qui doit. Hein, tu joues le Père Noël comme ça. Où est-ce que tu dois sauver tes lutins puis tes reines d'un Evil Snowman, hein, tout simplement. Le Père Noël va utiliser sa magie de glace pour tuer des rats géants, entre autres. Hein, tu piges des boules de glace.
Let it go.
Mais aussi, le Père Noël peut boire une tasse de café, qui est comme un genre de power-up, qui le fait se transformer en son propre Evil Twin.
Teacher!
Son Evil Twin porte un soute bleu plutôt qu'un soute rouge. Il peut pas utiliser de magie, mais il est indestructible. Et pour battre les ennemis, il doit se soigner la poche, soigner sa poche de jouets en frappant les ennemis et en les tuant.
Erreur tout à fait incompréhensible.
Oh oui, un lapsus de même.
Ça arrive à tout le monde.
Donc, ouais, un jeu qui n'est jamais sorti en Amérique et on se demande à peine pourquoi. Il y a où un autre jeu? Santa Claus Saves the Earth en 2002, un jeu de Telegames. Écoute, le jeu... Il est sorti sur PS1, sur Game Boy Advance. Le jeu n'a pas sa propre page Wikipédia. Ça donne un peu l'idée. Tu fais des recherches, c'est que tu trouves absolument pas d'informations. De ce que j'ai vu, là, j'ai vu un peu de vidéos de gameplay. Tu joues le Père Noël, puis c'est pas mal ce que je peux te dire. Tu joues le Père Noël, puis le gameplay est vraiment mauvais. Quand tu sautes, le bonhomme il saute, puis il fait un genre de parabole comme quand tu sautes. Mais rendu au top de la parabole, au lieu de continuer tranquillement, tu drops. Fait que le jeu est à peu près impossible à jouer parce que le mouvement il est zéro prédictible. T'sais. Ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi. Je pense que je comprends pourquoi il n'y a pas plus de jeux à thématique Noël quand j'ai vu ce jeu-là. Un autre jeu avec une thématique Noël, mais lui, c'est vraiment pas juste un jeu de Noël, c'est un jeu qui se retrouve à être dans cet univers-là, mais qui n'était pas, je pense, développé que pour ça. James Pond 2, Codename Robocode.
C'est pas bien bon, ça.
Ou Super James Bond, là, il y a comme les deux jeux. Écoute, ce jeu-là est sorti sur Amiga, sur Atari ST, sur Mega Drive en 91. Il a été porté après ça là, en Amiga AGA, Amiga CD32, bref, un paquet de Game Gear, Commodore 64, Master System, sur PC, sur Game Boy, sur SNES. Mettons que tu avais une console qui pouvait jouer des jeux, là, tu pouvais jouer à ce jeu-là. C'est à peu près certain.
Mais tu te sentais quand même bien de ne pas le faire.
Oui, tout à fait. C'est un platformer, pour ceux qui ne connaissent pas, où est-ce que tu jouais un poisson, James Bond, qui était la suite de James Bond. Finalement, c'est James Bond 2. Et là, à la fin de James Bond, le méchant qui s'appelle Dr. Maybe. J'aime tellement ça, les synopsis de jeu. Là. Dr. Maybe se sauve au pôle Nord et prend le contrôle de l'atelier du Père Noël. Il prend en otage les lutins. En fait, dans certaines versions des jeux, c'est pas des lutins, c'est des pingouins.
Je sais pas.
Comme ça, hein. Puis pour réussir, James Bond se fait donner un suit robotique. Hein, c'est pour ça le codename Robocode.
Ouais, c'était pas ça que je pensais, mais bon.
Hein. Ben, c'est un lien entre...
Hashtag Robocock, là, mais...
Ah, non, je... Peut-être.
Un shout-out à GF et son segment de la semaine dernière.
Qui donne des pouvoirs, là, blablabla. Bon, jamais joué non plus, là, mais... En tout cas, je suis pas sûr si je devrais. Je m'étais comme mis une note de peut-être, mais finalement... En y repensant. Fait qu'en plus des 302 versions originales, il y a eu des remakes. Game Boy Advance, au DS, au PS2, puis sur le PSN, on pouvait acheter cette version. C'est un remake de ce jeu-là. Ils ont fait des mises à jour au niveau graphique. Ils ont enlevé des trucs là, avec une des commandites qu'il y avait à l'époque. Mis les graphiques à jour. Mais le jeu est aussi là. C'est le même jeu, le même concept. Avec ils ont enlevé les pingouins pour mettre des lutins dans cette version-là. Bref, je sais pas à quel point tu me dis que c'est pas bon et je te crois, mais il y a eu comme 800 versions de jeu là.
Ah, on est à 302, c'est quand même pas pire.
Ouais, mais ça continue.
à mesure que t'en parles,
plus j'en parle, il y a des versions qui sortent. Je pense qu'il y a une version pour les micro-ondes.
La version de Genesis de James Bond 2 vaut genre 6$.
Ouais, mais non.
C'est gentil, mais fuck it.
Ouais, tu sais, mes achats impulsifs d'habitude, là, en mode 10 piastres, non, mais même lui, non.
Mais la pochette, elle est cool.
Ouais.
Je l'ai vu, puis pas sûr.
Anyway, c'est pas très, très audio comme segment, fait qu'on peut passer à d'autres choses.
J'arrive avec mes deux que je vais te garder pour la fin. Des jeux de Commodore 64, les deux.
Merci, moi.
Le premier s'appelle Frosty's Busy Night. C'est un jeu de course à deux joueurs, où l'écran est splitté là, de façon verticale, façon horizontale plutôt, où est-ce que chaque joueur est sur son chose. Puis là, dans le fond, c'est t'incarnes Frosty, là, Frosty the Snowman, après bon, l'histoire où est-ce que le Père Noël le sauve. Là. Puis on pense que le Père Noël le sauve pour l'amener au pôle Nord pour qu'il soit heureux et vit sa vie. Non, le Père Noël veut le faire travailler. Hein. Et le Père Noël veut le faire aller chercher un cadeau puis le ramener au Père Noël. Fait que c'est ça le but du jeu.
Dans ma tête, l'histoire était beaucoup plus intéressante. Là. C'est qu'après s'être fait sauver par le Père Noël, il rejoignait des gangs de rue puis se mettait à faire de la drift. C'est pour ça qu'il...
Ben, ça arrêtait pas pire. J'aimerais mieux ça. Bref, c'est un jeu de course à deux. Tu jouais à deux joueurs, puis l'idée, c'était bon, un genre de platformer, puis quand il y a des trucs à éviter, des trous bons, puis qui est une course. Fait que quand tu touches un objet ou tu tombes dans un trou, tu fonds, hein, parce que t'es un bonhomme de neige, puis tu recommences au début. Puis le but, c'est de se rendre à la fin. Mais il y a comme de quoi de weird dans les objets. Je veux dire, j'ai regardé un peu de gameplay, puis un des objets, des premiers que tu vois, c'est comme une bouteille de phare qui se promène de gauche à droite. On dirait vraiment une grosse bouteille de whisky. J'ai dit, OK, c'est peut-être que j'imagine des choses, peut-être qu'il est temps que les vacances arrivent, puis j'imagine de l'alcool ou est-ce qu'il n'y en a pas. Puis là, tu te rends un peu plus loin dans une grotte, puis un lutin qui a clairement l'air d'avoir un drink dans les mains, puis qui avance comme d'avant en arrière en l'air de titubant. Ouais, quand on se déplaçant sur le Commodore 64, ça a tout en l'air de tituber, mais bon. Fait que voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment n'importe quoi. Bref, je finis avec un petit highlight là, sur la trame sonore.
Le sound chip du Commodore 64, c'était... il torche.
Avec le drum avec un noise track.
Le fameux pshht.
Puis je pense que je vais garder le meilleur pour la fin. C'est un jeu qui s'appelle Special Delivery Santa's Christmas Chaos. sorti sur Commodore 64, aussi sur ZX Spectrum, sur Atari 8-bit. Un jeu de 84. Je commence avec la musique.
C'est agréable. Merci. Sens-toi libre de plus jamais refaire ça.
Moi, ok. Ou pas. Moi, je trouve ça drôle.
c'est son plaisir coupable.
C'est un action game de Creative Spark. Le jeu, dans le fond, tu joues le Père Noël encore une fois. Bon, le Père Noël a l'air d'une tâche parce que c'est Commodore 64, fait que ça a l'air d'une. Tu vois.
Donc, qu'est-ce que t'as fait le Père Noël?
Ben, dans ce jeu-là, il n'y a vraiment pas l'air du Père Noël.
Let's go.
Puis c'est un jeu où est-ce qu'il y a trois modes de jeu. T'as un premier mode de jeu où est-ce que tu pars de ton atelier, t'embarques sur ton traîneau. En tout cas, j'imagine que c'est ton atelier, on dirait juste une maison. Tu te mets à voler ton traîneau. Bon, il n'y a pas de reine, c'est juste ton traîneau qui flotte dans les airs. Okay. Puis tu dois attraper des cadeaux qui drop du ciel, pitchés par des anges. encore une fois, en tout cas.
Oh boy!
Puis là, il faut t'attraper les cadeaux. Puis si tu touches à un obstacle, tu perds les cadeaux. Ben, un obstacle étant un nuage, hein, parce que tout le monde dit qu'un nuage, c'est plus fort qu'un traîneau de Père Noël.
Quand tu rentres vite, là, ça fesse.
Quand tu rentres vite, ça fesse. Fait qu'après un certain segment d'essayer d'attraper des cadeaux, pas de pogner des nuages, puis que tu te fais pitcher les cadeaux par des petits anges, hein, parce que le Père Noël, c'est comme ça que ça marche. T'arrives à un party de maison, deuxième style de gameplay, faut que tu pitches tes cadeaux dans les plus petites maisons, dans la cheminée directe. Fait qu'un style de Paperboy, si on veut. Mm-hmm. Après ça, ben, si t'as plus de cadeaux, ça retourne au mode de jeu 1, tu rattrapes des cadeaux. De temps en temps, t'arrives au mode de jeu 3, si on veut, où est-ce que t'arrives à des maisons qui sont plus larges, faut que t'atterrisses sur le toit. Puis c'est là que t'arrives à une espèce de, ben, de stealth game de Père Noël, où est-ce que tu dois commencer par descendre dans la cheminée. Bon, dans la cheminée, il y a comme trois échelles de large, puis que là, tu descends en passant d'une échelle à l'autre, puis en dodgeant les flammes qui montent sur les échelles.
Ben oui.
Puis des balles de neige qui tombent du top.
Ah, OK.
C'est juste another day on the job.
Voilà.
T'arrives en bas, t'éteins le feu pour sortir de la cheminée. Mm-hmm. Puis là, t'es dans une espèce de maison en vue semi-isométrique. En fait, il y a une espèce d'effet d'isométrique, mais ça reste deux dimensions. Puis il faut que t'ailles porter ton cadeau en dessous du sapin, puis que tu pognes la clé pour sortir par la porte d'entrée. Bon, ton traîneau sur le toit, puis t'as des échelles dans la cheminée, mais c'est pas grave.
Puis t'es pas en condition physique suffisante pour vraiment grimper sur le top. Là.
C'est encore drôle, il y avait l'air d'avoir des pas pires abs, mon Père Noël, dans la vidéo.
Chest bra.
À force de grimper des échelles, puis de dodger du feu. Là.
Ça met son homme en forme.
Le côté stealth, c'est qu'il faut que tu dodges des enfants comme supposément somnambules qui ont l'air des zombies.
Tel Jean-François Harrison, il faut que tu dodges des enfants.
Oh, ça nous regarde pas.
C'est pas correct, ça. Ça, c'est pas correct.
Ça nous regarde, ça passe pas.
Fait plaisir, les gars.
Puis que quand tu... Là, j'ai même plus le goût de... Quand tu touches un enfant... En tout cas... Quand ton sprite clip le sprite d'un enfant.
Donc, quand que tu fais contact avec un enfant, oui.
Encore là, j'aime pas ça.
Ouais, je sais pas, mais...
Le Père Noël explose.
Ah, ben, gars.
Parce que
non, mais c'est une leçon de vie, là, si tu touches à des enfants, c'est ça que t'arrives.
Explose, voilà.
Voilà.
Donc, faut que tu dodges les enfants somnambules. Dans l'histoire, c'est parce que tu faut pas que tu les réveilles.
J'y avais plus là.
Ça n'a pas d'allure, rester.
Écoute, c'est décoeur, hein? Puis après ça, ben là, tu sors de la maison. Je sais pas de quelle façon, mais tu te retrouves sur le toit. Tu dois te téléporter. Là, j'imagine que tu cases sous l'eau pour qu'il te téléporte quelque chose. Puis ça recommence, tu sais. Mais il y a quand même trois modes de jeu dans un petit jeu de Atari comme 8-bit ou de Commodore 64. Ça a l'air quand même d'avoir une certaine profondeur. Puis lui, là, dans le tas, j'ai quand même le goût de l'essayer.
Mais de parler de jeux de stealth de Noël, ça m'a fait penser à un petit jeu hommage qui a été fait par un développeur indépendant qui s'appelle Mary Gear Solid 2.
Ah, on aime ça.
Ghost of Christmas Past. Qui est un jeu style rétro, là, vu de haut. Qui a l'air, bref, d'un ancien Metal Gear, là. Donc, vue aérienne, vue à la Zelda, où ce qu'on incarne Snake, en fait, Old Snake, qui doit aider à retrouver le chapeau de Santa d'un groupe d'extrémistes connus en tant que les Ghosts of Christmas Past. Voilà. C'est, fait que oui, il y a d'autres jeux indépendants de Noël.
Ah, des jeux, il y en a plusieurs. Tu me parlais hier, justement, dans...
Rise of the Triad.
Qui est dans le bundle qu'on s'est tous acheté.
dans l'anthologie 3D Realms, il y a Rise of the Triad qui est un.
C'est un peu sur le principe de Christmas Night là, dont je parlais tantôt. Là, où est-ce que...
Ouais, c'est ça. C'est que si tu joues à certains moments de l'année, le jeu est modifié pour représenter la saison, l'occasion spéciale à ce moment-là. Puis à Noël, ben, ils changent la musique. Puis à l'écran de loading, les personnages ont des petits chapeaux puis des cossins comme ça.
Donc, mais quand même, là, je reviens à mon dernier petit jeu. Là, j'avoue que le gameplay a l'air quand même intéressant, même si c'est n'importe quoi quand tu l'expliques. J'ai comme presque le goût de l'essayer. Le gameplay a l'air bien, surtout pour un jeu de l'époque pré-NES. Là, on s'entend que c'est peut-être pas tout le temps de la grosse qualité, là, mais lui, il a l'air pas pire. Donc, je vous souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Hein. Puis si vous essayez un de ces jeux-là, ou si vous voulez les essayer, là, mettons les versions PC, comme j'ai dit tantôt sur archive.org, il y a quand même beaucoup de versions. Puis si vous en testez, pendant le temps des fêtes, là, pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, parce qu'avec la neige ou le pas de neige à l'extérieur, ça pourrait être intéressant. on veut vos impressions. Pour vrai, là, moi, je les ai pas essayés. Puis s'il y a du monde qui les essaie, je veux savoir ce que ça donne. Fait que divanquest@gmail.com, ça serait vraiment très drôle d'avoir du retour sur quelqu'un qui a essayé, je sais pas, là, en co-op Frosties, machin truc, là, où est-ce que les deux bonhommes se sauvent puis essaient de dodger les bouteilles de phare.
Ou directement sur Facebook ou Twitter.
Ouais.
Sure. Fait que ça va être ça pour le show de cette semaine.
Oui, j'arrive dans ma petite conclusion. On a un retour à faire. On avait un concours. Donc, on a un gros tirage à faire. On a un gros tirage à faire. Écoutez, on a reçu des tonnes et des tonnes de choses. Donc, on va faire le tirage en faisant ça. Donc, en faisant un petit pile ou face, parce qu'on avait deux personnes qui ont eu du feedback, qui nous ont donné du feedback. Donc, on a les deux personnes. J'ai un 25 sous virtuel sur Google qui me fera un pile ou face. Si ça tombe sur pile, ce sera Francis qui gagnera. Francis qui nous a donné comme feedback le hashtag « Je suis coq ».
Qu'on a beaucoup apprécié.
Qu'on a beaucoup apprécié.
Ça a fait notre journée.
Et face...
Faudrait raconter l'anecdote un jour.
on est un petit peu mal, mais... hashtag je suis coq. Voilà. Merci Francis.
Et face Eric qui nous a lancé un good show sur Facebook en hommage à Henry Atworth. Donc je lance ma pièce virtuelle et ça tombe sur. Et c'est pile. Donc Francis, avec le hashtag je suis coq, on te contacte sur Twitter pour avoir ton adresse et t'envoyer Hotline Miami. voilà. Donc, pour du feedback ou du hate mail sur Twitter, twitter.com/divanquest, sur Facebook, facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est aussi disponible avec d'autres podcasts québécois sur rzoweb.com. Je vous invite à y faire un tour. Sinon, vous pouvez passer sur notre divanquest.com. Le site est encore... mettons, il y a une image, on peut cliquer dessus, mais un jour, ce sera plus développé. Sinon, iTunes, vous pouvez commenter, cliquer sur les petites étoiles, ça va nous faire plaisir. Puis je termine sur cela.